18h, 20h, Fou de sport. Avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche, 18h, 20h, pour parler principalement football, mais il y aura également d'autres sports. Vous l'aurez compris, nous sommes sur cette fameuse grande fenêtre FIFA, parce que c'est l'une des plus importantes, à tel point que j'ai même passé mon temps à regarder les calendriers. Et je me suis aperçu que nous ne sommes pas les seuls, nous, Africains, à finir nos éliminatoires au mois de mars, mais il y a d'autres continents et qui finiront également, comme nous. Et bien, tant mieux, quelque part, il y aura une espèce d'équité. Eh oui, sauf que nous, vous allez le comprendre à travers nos analyses, que on n'a pas choisi une date par hasard. Savez-vous que le tirage au sort des matchs de barrage aura lieu jour pour jour à moins de 365 jours de la finale de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde finale 2022, c'est le 18 décembre, et le tirage au sort des matchs africains, c'est le 18 décembre prochain. Donc voilà, il y aura un an d'écart, mais entre-temps, il y a cette fameuse CAN au Cameroun. Pour l'instant, wait and see. On ne sait pas trop ce qui se passe dans leurs coulisses. Moi, je vais commencer, comme le veut la tradition, bien entendu, par saluer ceux qui sont là autour de moi, bien entendu. Vous aussi, du côté du standard 01-53-48-3000, sans oublier les fréquences Beurre FM à travers la France, 20 fréquences sur la bande FM, plus bien sûr dans votre voiture, ce qu'on appelle le DAB+. Et je rajouterai à cela, évidemment, l'application. Sans plus tarder, c'est parti.
Jusqu'à 20h, Fou de sport sur Beurre FM.
Ah, je l'imagine sur le banc en train de se ronger les ongles. Et pourtant, il est comme tout le monde. Parce que quand on est coach, vous savez qu'est-ce qui se passe? Même si vous n'entraînez pas, même si vous êtes devant votre écran, vous voyez vos favoris. Et là, vous dites, moi, je dois faire autrement. Eh bien, celui qui va nous donner ce tempo ce soir, ben, c'est le coach. Bonsoir, Nasser.
Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux auditrices, auditeurs. Tu as une très très belle introduction, vraiment à chaque fois tu m'en sors une de...
Je n'ai rien préparé Nasser, c'est d'instinct.
Dis-toi que l'entraîneur est là pour gérer les incertitudes, tout le temps. Donc il anticipe tout, dans tout. Et c'est ça la problématique du métier. C'est qu'à un moment tu deviens, on va pas dire, tu deviens pas un parano, mais tu as tellement vécu de choses, de situations qui sont produites devant toi, qui où il n'y a pas de raisonnement, que tu déteins sur les gens. Puis après, un moment, tu tiens un discours aussi. Mais non, ça, c'est arrivé, c'est déjà arrivé. Ça peut arriver, les gars. Et quand ça se passe, t'as vu, ça s'est pas arrivé. Ah oui, parce que là, c'est passé. Alhamdoulilah.
Ah, c'est pour ça que je comprends l'émotion des entraîneurs. En fait, c'est, si vous voulez, quand, par exemple, il y a ton équipe, je sais pas moi, marque un but, je les vois sur leur banc en train d'exploser, de sauter, de courir dans tous les sens. C'est, en fait, c'est pour sortir un peu... de tout ce que t'as emmagasiné comme stress, etc. C'est ça, hein?
Bah oui, bien sûr. Bah oui. Ça dépend des natures des gens, mais bon, oui, en général, oui. c'est une des raisons. Mais en général, même quand tu marques un but, tu penses que tant qu'il n'y a pas la confirmation du résultat, quand tu regardes la France, même à 3-0, tu te dis, t'es toujours dans les schémas, il peut se passer des choses. Ouais. À la fin, il y en a 8. À la fin, tu te dis.
Mais c'est ça. Alors, lui, par contre, on va dire c'est un analyste de club, mais attention, il aime aussi les sélections, mais il préfère les clubs pour la production de jeux. Mais il faut de tout pour faire un monde, parce que s'il n'y a pas les petites équipes, bah, tu ne verras pas de foot, et surtout tu ne verras pas de foot gratuit, n'est-ce pas? Bonsoir Sofiane.
Ouais, bonsoir Mohan, salut coach, et un grand salut aux auditeurs et aux auditrices. J'aime le football, que ce soit club ou sélection. Ouais. Maintenant, comme on dit dans le jargon, le club, c'est le pain quotidien, c'est ce qu'on suit tout le temps, toute l'année. Et malheureusement, depuis quoi, une bonne décennie, le football de sélection, par rapport au football de club, il est un peu en perte de vitesse. Avant, le football de sélection, moi, je me rappelle, quand j'étais plus petit, en 2006, ma dernière vraie Coupe du Monde que j'ai eue, c'était 2006, avec Zidane pour l'équipe de France, Figo pour le Portugal, Henrik Larsson pour la Suède, vraiment, les sélections étaient le summum de ce qui se faisait en club. Maintenant, c'est l'inverse. Les clubs sont le summum de ce qui se fait en sélection.
Oui, parce que c'est l'argent. Hein.
Et ce que je dis toujours, aujourd'hui, je préfère regarder malheureusement PSG-Bayern que de regarder France-Allemagne. Bon, oui. Chacun se fait sa religion là-dessus, mais c'est un avis, quoi. Alors qu'avant, France-Allemagne, c'était le choc.
Ouais, moi, j'ai vu deux matchs encore cet après-midi, mais j'ai vu il y a deux jours, hier. J'ai vu l'Argentine, j'ai vu le Brésil. Ah, ouais. Franchement.
Ça t'a réconcilié avec le football
du club. Oui, oui, non, complètement. Là, tu vois quand même, c'est, c'est le nec plus ultra. T'as les vrais joueurs. Hein. Mais t'as les vrais, vrais joueurs.
Hein. J'ai regardé Nasser de larges extraits, justement, de ces éliminatoires sud-américains. Ah, je peux te dire une chose, c'est qu'il y a du foot. Et que ça joue.
C'est
très costaud. Hein.
C'est costaud, c'est en place. Et j'ai vu le Brésil qui est devenu une vraie équipe, le 4e Reich, on va dire.
À l'européenne.
Voilà. Et j'ai vu l'Argentine qui est revenue un petit peu à ses principes de jeu. Ça m'a un peu réconcilié avec le football technique. Et c'est bien de revoir ça. Sous l'Argentine, elle a une, ouais, je mets une petite pièce sur elle sur la Coupe du Monde. Parce que même Da Fonseca, qui est un très bon commentateur, que j'aime beaucoup, il a tenu des propos qui me semblaient très judicieux hein, sur cette équipe-là. Je dis, ouais, quand j'ai vu l'équipe, ils ont des petits jeunes au milieu, mais c'est des phénomènes.
Et ça donne quoi en défense?
En Peter là, t'as vu, il n'est même pas mis Messi. Hein.
Sans Messi,
Messi est rentré à la 78e minute, ouais. Mais comment qu'ils tournent le ballon, comment qu'ils font jouer. Ah, là, tu te dis, là on voit l'Argentine qui revient. Vraiment, hein. Vraiment avec une vraie équipe. Hein.
Eh bien, on va analyser tout ça dans notre fameuse semaine sportive.
Fou de sport. La semaine sportive. La semaine sportive.
Bien entendu, avant de. Messieurs, avant de parler football, avant de parler de la Coupe du Monde. Moi, j'ai un petit pincement au cœur parce que c'était, on va dire, c'était mon adolescence, c'était aussi mon enfance. Il nous a quittés cette semaine, à l'âge de 71 ans, un certain Lucif Hamani. Franchement, Nasser, j'ai été vraiment ému. Ouais.
Ben moi, j'ai eu la chance de le connaître. Et
ouais.
Je suis tombé très haut. Comme toi, j'ai envoyé ça à Nono.
Oui.
Bonjour.
Ouais.
Il m'a dit on a perdu l'un des plus grands fleurons de notre boxe du pays. J'ai dit ouais. Mais c'est fou comment les gens cette année-là sont partis là. Bon. Et Lucif Hamani, on peut pas expliquer. C'est quoi Lucif Hamani, celui qui.
Mais oui, c'est nous, là. C'est nous.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est notre génération de la vraie.
Ah oui.
Quand tu demandes à Sofiane, tu connais Lucif Hamani?
Là, non, je connais pas.
T'as vu?
Tu vois, ouais. Non, je suis honnête, t'as vu?
Parce que moi, si je te parle de Lucif Hamani, il faudrait que je te parle de Rodrigo Valdés, de Carlos Monzon, de Marvin Hagler, tous ces grands boxeurs. Et d'ailleurs, il t'explique quand même toute sa carrière, il n'a perdu que deux combats, et à chaque fois, les deux combats qu'il a perdu, parce que sa maman n'était pas là. Il faut savoir que sa maman, toujours en robe kabyle. Ah oui, la maman, elle est dans les. On va dire. Dans les gradins pour aller voir les combats de son fils et toujours en robe kabyle hein. Toujours en robe kabyle et je peux pas oublier ces images là les deux fois où elle était pas là il a perdu les deux matchs bon dont l'un contre Marvin Hagler et contre Marvin Hagler il explique pourquoi il a perdu
alors dis-nous
oui c'est lui-même il a dit de toute façon à l'époque il était tu sais bien qu'il y avait vraiment les gros managers de la WBA etc tout il a dit il était hors de question qu'un Algérien puisse avoir la ceinture. C'était impossible.
Oh,
c'était réservé uniquement aux Américains. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en plus, il avait vraiment souffert pour faire cette préparation. Voilà, au bout de deux rondes, ça y est, il a été mis KO.
C'est Marvin Hagler.
Et puis c'était Marvin Hagler. Il suffit d'aller voir les images. Jean Sofiane, tu regardes les combats de Marvin Hagler, tu vas comprendre qui était le monstre. Donc,
On a vécu une grande période de boxe incroyable.
Mais moi j'ai eu la chance de regarder ces combats et ça m'arrive encore de les regarder. C'est-à-dire des Hagler, des Sugar Leonard, des Thomas Hearns, Mohamed Ali, Geoff Razier, Foreman. Oui, je regarde encore. Je regarde parce que c'était des monstres. Et puis physiquement, comment ils tenaient. C'était des phénomènes. Mais aujourd'hui. On propose des combats de 6-8 rondes. Mais attention, à l'époque, c'était 15 rounds. Tu imagines un combat en 15 rounds de 3 minutes. Ça fait 45 minutes.
De coups dans la tête.
Mais tu imagines, donc, avec la minute de récup, tu es sur une heure de combat.
C'est ça.
Tu sors du combat, tu as perdu 15 kilos. C'est simple, les boxeurs, ils sont...
J'ai vu un film il n'y a pas longtemps là, sur la vie de Rocky.
Oui.
La vraie vie, hein.
Oui.
Celui-là
qui
a été pris en exemple.
Oui.
Je sais pas si vous l'avez vu le film là, mais il est magnifique. Hein. Franchement, ça explique bien le mec par où il est passé. Hein.
Ouais,
il a vécu. Hein. Ouais. Et ça m'a rappelé, voilà. Ça m'a rappelé toute cette période qui me rappelle.
Parce que nous, à l'époque de la Serre, cette génération-là, on avait deux boxeurs. Il y avait Donc, le Sef Hamna Rabbi Rahmoud, il était dans la catégorie des super welters. Et il y avait Abdelkader Oud Makhloufi qui était dans la catégorie des super légers, qui lui était également, il a perdu contre un japonais son titre de champion du monde. Il a été battu par, il s'appelait Shibata, si ma mémoire ne fait pas défaut. Voilà, c'était aussi des boxeurs qui sont très fins, qui sont très agiles, etc. Parce que nous, on n'a pas des boxeurs qui ont la carrière de poids lourd, quoi. C'était beaucoup plus pour l'Afrique subsaharienne. Et nous, on était beaucoup.
Les géorgiens, c'est mieux.
Voilà. Nous, on était beaucoup dans la catégorie.
Oui, des stylistes. Tous les stylistes. Ouais. Moi, il y a Giroud, une fois, qui m'avait dit je ne comprends pas que dans les pays du Maghreb, vous ne mettez pas une école de formation sur la boxe. Parce que la boxe, c'est vous, la boxe. Ah, ouais. La boxe, c'est le marathon. J'ai dit exactement. Les courses de très longue distance, c'est pour nous. Et là, on se fait piller le trésor par des Kenyans, par des gens qui sont là, mais on sait pertinemment que nous, que ce soit les Marocains, Algériens, peut-être pas un peu moins les Tunisiens, mais les Marocains, Algériens, ils ont un don dans ces sports-là, et tu te rends compte que, qu'aujourd'hui, quand on fait les Jeux Olympiques, on n'y est même pas, tu te rends compte
alors que la boxe a ramené beaucoup de médailles à l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'on est passé par l'école cubaine, Nasser. Tout le monde oublie que la plus grande école de boxe amateur au monde, c'est l'école cubaine.
Et on n'y est plus.
On n'y est plus.
On est sur les plages maintenant.
On a plus de Cubains chez nous.
C'est incroyable.
Ah oui, parce que tu vas, quel que soit l'athlète, qu'il soit coureur, qu'il soit boxeur, etc., quand tu pars à Cuba, tu travailles là-bas, tu es sûr de te préparer pour être un médaillé olympique.
C'est l'école russe.
Oui.
Bah, je t'expliquerai.
Soviétique.
Oui, bien sûr, ça, on le sait.
La vraie école du sport, mon frère, je te le dis.
Ouais. Ah oui, l'époque de. Moi, je me rappelle d'un certain Alberto Juan Torena sur les 400 mètres. Voilà, donc ça,
c'est l'espagnol du Juan Torena
c'est un Cubain.
Ok. C'est Sotomayor.
Sotomayor, c'est le sauteur. Sotomayor. Javier Sotomayor, c'est le sauteur.
Ah, j'y connais pas Sofiane. J'adore quand il a ses grands yeux, là. Mais là, il me bascule dans mes 20 ans, 25 ans.
Non, mais après, attention, Sofiane, attention, quand on parle de ces sportifs, mais. Franchement, aujourd'hui, oui, j'ai un regret dans ma vie, c'est de ne pas avoir pu, à une époque, faire l'interview de Lucif Hamane. Bon, après, il était malade, on a vu qu'il souffrait un peu. Parce que la plupart des boxeurs...
Qui était venu une fois, qui était venu, qui nous avait raconté l'histoire de la gaufrette là, dans la valise?
Ah oui, c'est Mourad Fergan. Voilà, Mourad Fergan faisait partie de cette génération de Lucif Hamani.
Voilà,
et Mourad Fergan était programmé, lui, pour être champion du monde.
Tout à fait.
Et à partir de la demi-finale, normalement, si tu te prépares en tant que challenger, donc tu es censé recevoir le champion chez toi. Mmh. Et puis, il n'a pas, la fédération de boxe à l'époque chez nous, malheureusement, n'a pas ramassé ce qu'on appelle l'argent nécessaire. Parce qu'un combat de boxe, il y a derrière des enjeux financiers énormes, surtout sur le WBA, WBC, etc. La sœur, ça se passe comme ça, avec les consignes, c'est comme ça. Hein.
Moi, je me suis rappelé de l'histoire de la gaufrette, tu te rappelles, il t'a dit que
il avait
un carton.
Ouais, c'est,
en il plus, a dit que comme j'ai senti que c'était lourd, j'ai dit, tiens, c'est bien, il y a de voir un bon truc.
Et quand
il est arrivé au vestiaire...
Et quand tu sais, Miskin, c'était c'était donc Mourad Fergan, il nous l'a raconté.
Il a ouvert la boîte, c'était un paquet de gaufrettes.
Et en plus, la boîte lui a été remise par... Par le maître de la musique, de la chanson Chabi algérienne, pas n'importe qui, Rabbi Rahmoud, le Hajj Mohamed Lanqa.
Ah oui.
Et le lendemain, quand Lanqa, il a su qu'il a remis une gaufrette au champion de boxe, qui était Mourad Fergan, crois-moi que il aura passé un sacré savon. Voilà, c'est vrai que j'ai voulu faire ce petit clin d'œil, parce que c'est vrai, Lucif était un sacré champion. Quand j'étais enfant, bien entendu, je suivais ses combats. La télévision, à l'époque, c'était une télé noir et blanc. Mais j'étais beaucoup sur la radio parce que...
Moi, je le comparais avec...
J'écoutais la radio, c'est ça.
Je le comparaissais avec Idir.
Ouais.
Tu vois, les deux. Pour moi, quand j'étais jeune, c'est les deux.
Mais tu sais qu'ils étaient copains.
Ouais, voilà,
tu avais Idir, Lucif et Matoub.
Voilà.
Ils étaient copains.
Ah, oui.
Ils étaient copains. Donc, c'est... Tu vois, ils sont... ça y est, le dernier d'entre eux est parti.
Ouais.
Ouais. Ouais, merci pour ce clin d'œil. J'ai beaucoup d'émotions là. Franchement, ça m'a un petit peu secoué. On se retrouve juste après pour parler cette fois-ci de Coupe du Monde. Alors, c'est avec Sofiane, mais je vais lui demander beaucoup de travail ce soir. Il va me chercher toutes les zones. Comme ça, on va connaître le nombre de qualifiés et ceux qui vont faire les barrages. À tout de suite.
Foot de sport revient dans un instant sur
sur Beurre FM.
C'est bien, hein, un débat très très...
Vous avez pas vu, je crois, Mohan,
mais non, mais c'est
raison,
normal. C'est
on
là.
Est marre d'avoir raison.
Ouais, il y a non, il y a les off. Alors, il faut expliquer à nos auditeurs au niveau des qualifications barrage. L'Europe, c'est 10 groupes. On est d'accord, Sofiane?
C'est ça.
Ça veut dire que le premier de chaque groupe est qualifié d'office pour la Coupe du Monde.
Ça fait 10.
Ça fait 10. Il y a que se passe-t-il avec les 10 deuxièmes? Alors, est-ce que on prend les 6 meilleurs deuxièmes ou comment ça va se passer pour les fameux barrages aller-retour là? Avant ces fameuses places de la Ligue des Nations, c'est là que ça devient compliqué.
Oui, Sofiane, explique-nous ça.
Non, alors moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a trois mini-tournois.
Ouais. Trois mini-tournois.
Enfin, un mini-tournoi avec trois groupes de quatre équipes.
Okay. Trois groupes de quatre équipes.
C'est ça.
Ça fait 12.
Voilà. Qui s'affronteront sur une semaine, donc du 22 au 29 mars, ce que j'ai dit.
Ouais.
Donc c'est bien les 10 meilleurs deuxièmes, plus les deux meilleurs de la Ligue
des Nations.
La Ligue des Nations qui sont récupérés.
Ouais.
Alors, j'ai
les 14 vainqueurs de groupe,
oui,
de la Ligue des Nations 2020-2021.
Ouais.
Donc, à mon avis, là, il y a la France, il y a l'Espagne, il y a l'Italie, il y a la Belgique, il y a le Pays de Galles, l'Autriche, la République tchèque,
ouais,
la Hongrie. Donc, je pense qu'ils vont enlever les équipes qui sont déjà qualifiées.
Ouais, c'est ça.
Il va rester un contingent d'équipes,
ouais,
qui, en fait, je pense, parce que du coup, il y a, on a dit combien de groupes? On a dit
10 groupes de 3.
Non, on a dit 10 groupes, donc ouais, les 10 premiers.
Oui.
Donc je crois que tu dois avoir les... pour que ça fasse 4 groupes de 3, ça fait 12 équipes.
Voilà.
Donc tu prends les 10 secondes,
voilà,
et tu repêches les deux vainqueurs de groupe de Ligue des Nations.
Tout à
Est-ce
fait.
Que c'est clair pour tout le monde ou pas? Ouais.
Non mais, quand tu parles de vainqueurs de Ligue des Nations, déjà, il y a des équipes qui font tirer. Ça veut dire qu'il faut prendre les équipes au moins qui ont fini 3e.
Non, c'est pas clair. C'est pas clair pour
moi. C'est pas très clair pour l'instant.
Non, c'est ça. Non, parce qu'en fait, toutes les équipes qui sont qualifiées, tu les calcules pas. Ouais. Ligue des Champions, tu calcules pas. Il va rester un certain nombre d'équipes qui ont fait la Ligue des Nations.
Oui,
et
c'est ça.
Pas que la Ligue des Nations, il y a le groupe A et groupe B.
C'est exactement ça. Il y a quatre groupes.
C'est ça.
Groupe Ligue A, Ligue B, Ligue C, Ligue D.
Ça. Ils vont sûrement aller là-dedans pour c'est récupérer
ça.
Les deux.
Quand on parle de vainqueur de groupe, c'est vainqueur de la Ligue.
Ouais. D'accord.
Ça peut être la plus petite Ligue, tu vois.
D'accord. C'est ça.
Donc, par exemple, là, par exemple, je vois l'Arménie, l'Albanie et les îles Féroé, je crois, c'est ça. Enfin, Croix-Rouge sur fond blanc, je crois que c'est les îles Féroé, mais je suis pas sûr. Et à Malte aussi, je crois. Ça, c'est les plus petits pays qui ont
ils
gagné.
Ils n'accèdent pas à ça. Ouais. Ils sont pas dans...
Alors, qu'on gagne...
Il y a quand même deux niveaux. Ligue des Nations, t'as le niveau A.
C'est la France, l'Espagne, l'Italie. Ouais.
Et t'as le groupe B. Je pense qu'ils vont aller chercher les vainqueurs, tu sais, dans leur groupe. Tu sais, quand ils étaient dans leur groupe des Ligue des Nations, quand ils faisaient leur groupe.
C'est ça, ouais.
C'est là-dedans qu'ils vont aller chercher les deux, là. De ceux qui ont le meilleur point, je sais pas, il faudra retrouver les résultats.
Moi, ça met les vainqueurs le vainqueur des groupes.
Voilà.
C'est Ligue des Nations 2020-2021. Bon. Sachant que comme tu as des équipes qui sont déjà qualifiées au fur et à mesure, donc France n'est pas concernée, l'Italie normalement ne devrait pas être concernée,
l'Espagne
non plus,
ouais,
la Belgique, le Pays de Galles, on ne sait pas. Mais sachant que le Pays de Galles peut y accéder par les barrages aussi, tu vois. Donc,
Et si, je vais donner une supposition, et si l'Espagne se fait éliminer ce soir?
Ouais.
Est-ce qu'elle ne reprend pas un poste de barragiste de l'autre côté?
Normalement, oui.
Si elle reprend, mais pas par rapport à la Ligue des Nations, parce que s'ils finissent deuxième de leur groupe, donc ils sont automatiquement qualifiés pour les barrages. C'est ça aussi.
Ouais, c'est ça tout à fait. Non, c'est très, très bien.
Il y a quelque chose de logique. Je pense que les équipes qui vont être choisies, c'est parce qu'elles n'auront pas fini. C'est pour ça, là, pourquoi je vous interpelle, c'est parce que je voudrais connaître le classement de tous les groupes européens, c'est-à-dire du groupe 1 ou groupe 10, savoir qui est, par exemple, la France est qualifiée. Alors, qui est deuxième du groupe de la France? C'est la Finlande, c'est ça?
Finlande. Finlande suivi de... je ne l'ai plus en tête, là.
Finlande, il y a la Bosnie.
Oui.
Et je crois que la Finlande est sur...
Non, mais la Bosnie, elle est dernière. Ça,
j'ai dernière.
Oui.
Donc, Finlande, Bosnie, il y a l'Ukraine. Je ne sais pas s'ils ils en sont où, les Ukrainiens.
Se joue entre la Finlande et l'Ukraine. Si la France bat la Finlande mardi...
Oui.
Et que l'Ukraine gagne, il passe deuxième. C'est ça l'histoire. C'est vrai que Deschamps disait qu'il avait un jeu à rouer, il avait le respect des nations, il devait jouer le jeu.
Alors là, ça va pas être très clair pour les auditeurs. Mais ce que ça me met ici, c'est le vainqueur du groupe, le deuxième du groupe B et sera opposé au vainqueur de la Ligue des Nations numéro 1.
D'accord.
Et le
vainqueur de la Ligue des Nations, ça crée confusion, ça.
Il écrit.
Mais bien sûr, parce que c'est la France qui a gagné la Ligue des Nations.
Oui, mais la France elle est pas calculée parce
que
donc on va redescendre, on va regarder plutôt dans la compétition qui a été la mieux classée ou je sais
pas.
La
mieux classée.
Ah oui, c'est ça, je pense que ça va être ça, forcément.
Ça.
Forcément.
Donc, après, comment qu'ils nous baladent avec les chiffres, avec les trucs là, c'est pour te noyer et pour toujours tirer la quintessence des pays qui veulent à tout prix, qui ont un potentiel public important.
C'est ça.
Faut pas oublier ça, les gars, surtout pas sortir de cet horizon-là. C'est le public, les pays, le nombre d'habitants.
Alors, sachant que
le pouvoir commercial.
Alors, je lis là une info. L'Autriche, larguée, mais barragiste pour la Coupe du Monde 2022 grâce à la Ligue des Nations.
Voilà, c'est ça.
Voilà. C'est clair et net.
L'Autriche était la Ligue B, je crois.
Ouais. Donc, déjà, l'Autriche est barragiste.
Oui. Ouais.
Je crois qu'ils ont fait. Non, ils ont battu Israël 4-2 parce qu'à un moment donné, ils étaient menés. Après,
ils ont gagné 4-2. Ils ont fait un tel micmac.
Oui, mais c'est affreux, là.
Voilà. Bah oui, on y est là-dedans. Allez, on rentre dans les méandres de la FIFA.
Bon, alors, on se revient à ce qu'on va faire. Parce que l'Afrique, on va la laisser après parce qu'il y a tellement de choses à dire. On va juste faire ce qu'on appelle une synthèse européenne. Si tu peux m'avoir les groupes, parce qu'ils sont 10. On a déjà des équipes qui sont qualifiées. T'as des équipes qui vont avoir leur qualif ce soir, puisque la fenêtre FIFA elle est valable jusqu'à la semaine prochaine encore. Hein.
C'est ça.
Bon, on sait que déjà hier la France, comme on l'a dit, 8-0, pas de problème, ils sont qualifiés.
Oui.
Mais pour l'instant, il me semble qu'il y a l'Allemagne aussi qui est qualifiée.
Oui, l'Allemagne est qualifiée. Ouais.
Ah oui, l'Allemagne est qualifiée. L'Espagne hier qui a réalisé un sacré coup, ou avant-hier plutôt. Un sacré coup donc pour les Espagnols, du coup ça leur a permis que c'était en Grèce hein. Ouais. Et grâce justement à ce but bah, les Espagnols ils sont bien placés aussi. Voilà, je vous avoue que c'est un peu compliqué, mais pour l'instant l'un des barragistes s'appelle l'Autriche. Voilà, je continue maintenant sans plus tarder. Alors, vous êtes prêts là ?
Oui, on est prêts, oui.
Bon, j'ai tout là.
Bon, alors.
Portugal-Serbie.
Oui, Portugal-Serbie.
17 points.
Ouais, ça, c'est une finale de groupe, ça.
Mais simplement, il faut faire attention avec les goals averages, parce que tu as le Portugal qui a plus 12, la Serbie qui a plus 8.
Oui.
Donc, s'ils font nul, le Portugal, il passe.
Absolument.
C'est pour ça qu'il leur faut à tout prix ça. Dans le groupe B, tu as l'Espagne-Suède, pareil, 16 points, 15 points, donc il y a un point
différent. Ah oui, c'est
vrai. Là, il y a plus 9 et plus 7.
Ouais.
Donc le Paris et l'Espagne, elle a l'avantage de faire le match nul chez elle,
c'est ça.
Qui la qualifierait. C'est très important ça, le match nul, hein, parce que c'est pas la même chose. Hein,
c'est clair.
Assuré. T'as le groupe C, tu vois pas, parce que l'Italie
oui,
15 points, on pointe avec la Suisse, 15 points, il y a plus 11 et plus 5, donc l'Italie prend le nul, et en sachant qu'elle doit aller demain en Irlande du Nord, et la Suisse, elle, va recevoir la Bulgarie.
Ouais. Et l'Italie qui est pas trop en forme en ce moment.
Ouais,
c'est vrai, j'ai remarqué sur les matchs, les dernières
productions
de l'Italie, c'est pas
top. Après, la France, on calcule plus à la 11-11. Mais bon, pour la deuxième place, t'as la Finlande qui a quand même 11 points et t'as l'Ukraine qui a 9 points.
Ouais.
Et t'as la Finlande qui va aller jouer la Bosnie. Non, ça c'était le résultat.
Ouais. De toute façon, la Bosnie, déjà, on sait que c'est terminé.
C'est éliminé, ouais.
Ouais, c'est éliminé.
La Bosnie, elle a 7 points.
Elle est éliminée, ouais.
Mais
pour le barrage, il y a peut-être un coup.
Oui.
Bah ouais, bien sûr. Et on est là-dessus. Sinon, ensuite, on va être sur le groupe E, où tu as la Belgique qui a.
Qui est qualifiée.
Qui est qualifiée, 19
oui,
points.
Oui.
Suivi du Pays de Galles, 14. Et République tchèque, 11 points.
Oui.
Sachant qu'il y a plus 3 pour la République tchèque et plus 5 pour le Pays de Galles. Et s'ils perdent le Pays de Galles, qui doit recevoir, excusez-moi, la Biélorussie, qui est la dernière, qui n'a pas, pas pris un point. Et la Belgique va recevoir l'Estonie.
Il y a un match intéressant, une qualif intéressante, c'est celle déjà du Danemark. Ils sont qualifiés depuis longtemps. Il n'y a pas de souci pour les
Danemark. Danemark qualifié, oui.
Danemark. Et je crois que les Russes, ils sont pas très loin.
Ou... Alors, la Russie a été battue cet après-midi par la Croatie. Du coup, c'est la Croatie qui est qualifiée.
Ah oui
ouais. Oh là là. La Croatie a battu la Russie cet après-midi.
Oui, oui, oui. Donc, du coup,
elle s'est qualifiée.
Oui, oui.
La Croatie est qualifiée, ouais.
C'est la Croatie qui est partie.
Et la Russie est deuxième.
La Russie est deuxième.
La Russie est deuxième, ouais.
Pour l'instant, ouais.
D'accord.
Ils ont gagné 1-0.
Voilà. Croatie, 23 points. Russie, 22 points. Ouais. Et la Slovaquie qui est très loin derrière, 14 points. Voilà.
C'est ça. Et la Croatie ferme la marche des qualifiés européens avec l'Allemagne, le Danemark, la France, la Belgique. Pour l'instant, c'est les pays qui sont qualifiés en dans la zone Europe. Pour la Coupe du Monde, le Qatar 2022, s'ajoute le Qatar qui est pays organisateur et le Brésil qui est largement en tête de son groupe en Amérique du Sud et qui est qualifié.
Alors, une précision de taille quand même, mon cher Sofiane. C'est que les éliminatoires de Coupe du Monde zone Amérique du Sud continuent aussi en mars.
Oui, c'est pas terminé.
Parce qu'apparemment, ils ont, je crois, 22 journées. C'est comme un véritable championnat.
Exactement, oui. Ouais. Et l'Argentine qui est deuxième, loin derrière le Brésil, qui devrait pas tarder aussi à composter son billet pour le Qatar, puisqu'ils ont une avance assez confortable sur le troisième. Et en fait, bon, surtout sur le cinquième qui, lui, sera barragiste.
Tout à fait.
Mais tu sais que le groupe le plus intéressant... c'est le groupe du Pays-Bas. T'as Pays-Bas qui a 20 points sur 9 matchs joués. Deuxième, t'as la Turquie, 18 points, 9 matchs joués. T'as la Norvège, 18 points, 9 matchs joués.
Ouh là 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 là. Alors, c'est le big groupe là.
Voilà, ouais. Et là, t'as Pays-Bas-Norvège.
Bah, c'est une finale.
Et t'as Monténégro-Turquie. La Turquie peut faire le coup. C'est-à-dire que s'ils vont gagner, imagine que la Norvège va taper le Pays-Bas et que la Turquie gagne, c'est la Turquie qui passe.
Ouais. Alors, je vous donne également une belle surprise. La Macédoine du Nord. La Macédoine du Nord, c'est le groupe de l'Allemagne. Pour l'instant, elle est deuxième. Ça veut dire qu'elle va au play-off. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne, avec 27 points, ça y est, plus 30, donc 10 matchs joués, 9 victoires, 1 défaite. Par contre, la Macédoine du Nord, Nasser, bah, attention quand on parle de 10 matchs, ça veut dire qu'actuellement, il y a le match en cours. Hein. Par exemple, l'Allemagne mène en Arménie sur le score de 1-0. Et c'est surtout ça qui est important, c'est que la Macédoine du Nord mène contre l'Islande 1-0.
C'est une surprise, ça.
C'est une surprise. Ouais. La Roumanie qui est...
Alors, moi, je voyais plus costaud que ça, l'Islande. Hein.
Ouais, bien sûr. Ouais. Oui, là, pour l'instant, l'Islande est 5e, la serre.
J'ai vu.
Si les résultats restent en l'état, c'est la Roumanie qui fait les frais de la qualification de la Macédoine.
Parce que
la Roumanie, 17 points, la Macédoine du Nord, 18 points. Attention, les matchs sont en cours, hein, ça joue depuis une demi-heure. Mais on a les premières tendances sur ce groupe qui est très, très passionnant. Et voilà, après, donc, on va tomber sur les groupes africains. Mais ça, c'est ce que nous allons aborder maintenant.
Jusqu'à 20h, sur Beurre FM.
Bon, alors, l'Afrique, on a suivi depuis la semaine dernière. Bon, d'abord, moi, avant de parler de l'Algérie, etc., je tire d'abord mon chapeau à Vahid Ali Lodzic, parce qu'on est en train de lui mettre la pression, une pression de ouf sur Ziyech. Et sauf que lui, là, avec ce groupe, il continue à gagner. Et en plus, il a mis des jeunes joueurs qui donnent entière satisfaction. Entre autres, le petit gamin, là, il doit être. C'est un mélange, à mon avis, de Maroc, Congo. Mamie, il s'appelle comme ça, c'est ça le garçon là de
Mamai,
voilà, qui vient du Ferencváros Budapest en Hongrie, qui a marqué un doublé. Ça fait le Maroc a gagné 3-0, rien à dire, trop facile. Ils reçoivent la Guinée, ils peuvent faire le grand chelem, c'est-à-dire 6 matchs, 6 victoires, 18 points. Ce sera, je crois, demain ou mardi. En tous les cas, il faut vraiment tirer un coup de chapeau. Et du coup, Ziyech, qui faisait la forte tête, risque de voir la Coupe du Monde lui passer sous son nez. Sauf si Sa Majesté intervient en sa faveur. Et malgré ça, on connaît Vahid, il va dire moi ou lui. Lui ou moi. Nasser, il connaît.
Mais ça lui a coûté la Coupe du Monde au Japon. Hein.
Oui.
C'est exactement pour les mêmes problèmes.
Hein. C'est incroyable, Nasser. Non, mais attends.
Quand tu n'as pas les données du problème devant toi et que tu écoutes à travers les gens qui colportent ce qu'on a envie de colporter, on a toujours l'impression que. Vahid est en tort, mais quand tu sais qu'il a affaire à des joueurs compliqués à gérer, très compliqués, surtout les gens dans des pays de maghrébins qui ont des vrais statuts et qui le font voir, tu l'obliges à jouer avec sa vérité à lui, qui est d'aligner les joueurs qui ont vraiment le potentiel d'attaquer et de défendre. Si le mec le fait pas, il acceptera pas. Donc après un moment, il va être encore victime de son ego. Maintenant, s'il est dans les bons rouages du roi, il l'acceptera. Si le roi n'accepte pas que Ziyech est un poids électoral quand même important, ouais. Un poids de paix sociale, s'il ne fait pas la Coupe du Monde, c'est chaud d'homme. Hein. C'est chaud pour lui.
Oui, mais un peu, c'est aussi, on va dire, Nasser, c'est l'histoire d'Andy Deleur avec Jamel Belmadi. Oui, nous on se farcit l'Afrique, puis après, toi, tu arrives pour faire la Coupe du Monde, alors que...
Je crois pas que c'est comme ça, Ziyech, c'est pas la même chose. Lui, c'est pour un problème de... Un problème de discipline, de groupe, de ce qu'il a mis en place et tout. C'est pas une histoire de pas venir, je viens pas. C'est simplement que Ziyech, comme tous les gens qui ont un statut, ils signent dans des grands clubs,
Qu'il est venu avec le statut de Chelsea.
Voilà, exactement ça.
Et ça je pense que le statut de l'Ajax l'aurait peut-être un peu plus...
Mais c'est exactement ça. Ouais. De toute façon, tu trouves des joueurs exceptionnels quand ils sont dans des petits clubs et tu trouves des... Quand tu trouves des mecs qui changent de club, ça change de statut, il vient, il gonfle et tu retrouves plus le même mec, quoi. Et tu te rends compte que c'est plus ça. Donc après, Ziyech, je sais même pas s'il joue encore. Il joue très peu. Hein.
Non, il joue pas beaucoup.
Il joue pas beaucoup maintenant.
Ah. Il joue pas énormément et c'est un vrai choix fort de Vahid qui, depuis qu'il est arrivé, en fait, lui, a trouvé ses joueurs, son 11.
C'est ça. Ouais.
Et donc Ziyech écartait des plans, puis ça a l'air de marcher, puisqu'en termes de résultats, le Maroc est,
ah oui,
ouais, est déjà barragiste.
Bah, c'est ce que je dis. Donc, pour le Maroc, c'est simple. 5 matchs, 5 victoires. Donc largement en tête, qualifié déjà.
Ouais, voilà. Ouais, mais bon, après.
Et ça a même permis à Vaïd de faire tourner l'effectif, là, c'est, hein. J'ai regardé la compo parce que
c'est compliqué, moi, de ça, de parler de compliqué. On utilise des mots à l'européenne qui, dans des managements de pays européens où tout est structuré, tout est ficelé, tout est cadenassé, où tout a un temps et pas un autre temps, tu vois, un temps bien donné. Et nous, on est dans des pays où, bah, tu vois, Vaïd se retrouve à être en clash avec l'un des meilleurs joueurs de son pays. Ouais. C'est qu'il y a un problème d'organisation là-bas, c'est clair. Et donc c'est lui qui est devant en plus. Et ça sous-entend que voilà, tu te sépares de Ziyech, pourquoi les raisons? Bah il court pas, il fait pas le travail. Bah si tu cours pas, tu travailles pas, tu joues pas. Voilà. Et l'autre dit non, moi je cours pas, je suis Messi.
C'est ça,
hein. Ouais. C'est ça le gros. Ouais. Et comme nous on a des égos, tu sais, des égos à la maghrébine,
bah, oui.
Bah, tu te retrouves devant des clashs, et comme tu es supporté par des journalistes qui colportent la rumeur, comment Ziyech joue pas, je joue pas, et bah tu te retrouves dans un clash là aujourd'hui. Et c'est pas bon parce que ça tape sur l'aspect du groupe.
Ouais.
Et quand tu sais que ce que c'est que barragiste en zone Afrique aujourd'hui en 2020, c'est pas la zone Afrique en 82 ou 86, hein, je te le dis tout de suite. Là, t'as des vraies équipes qui vont jouer. Hein. T'as des vrais clubs, t'as des vrais pays, t'as des vrais terrains aujourd'hui. T'as plus des histoires en train de dire l'arbitrage là, il y a le VAR, il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour que le match se passe dans de bonnes conditions. Donc c'est-à-dire que les équipes qui ont vraiment un potentiel, on va dire intéressant, ont des grandes chances de passer. Tu passeras pas par les coulisses, hein. Ça va être, on va dire, ça va fonctionner toujours, mais ça prendra moins le pas ou le poids que il fuit une période.
Et d'ailleurs, Nasser, juste un petit rappel, c'est que le Maroc, c'était depuis la quatrième journée qu'il s'était qualifié après sa victoire en Guinée. Hein.
Ouais.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Maroc est qualifié. En plus, il fait partie de ce fameux classement FIFA. Alors, je le rappelle pour nos auditeurs aujourd'hui, le classement africain, en tête, il y a le Sénégal, suit la Tunisie, va savoir comment, si t'as une explication, Sofiane, tu peux me la donner, mais je ne sais pas.
Que tu ne connais pas. Il y a un coefficient qui existe dans le calcul, ouais.
C'est incroyable. Le troisième, c'est le Maroc, quatrième, Algérie, et cinquième, Nigeria. Voilà. C'est-à-dire que si ces équipes se qualifient, dans l'autre groupe, on va retrouver déjà trois pays qualifiés sur cinq, à savoir l'Égypte qui est qualifiée, le Mali et la RDC. Deux pays vont se dégager dans un dès ce soir, à savoir le match Ghana, Afrique du Sud, on le saura ce soir, et puis surtout, je crois que c'est demain ou après-demain, un certain Cameroun, Côte d'Ivoire, là aussi. Ah oui, non mais Cameroun, Côte d'Ivoire, il y a match nul, c'est la Côte d'Ivoire qui y va. Le Cameroun gagne, le Cameroun y va. Voilà. La Côte d'Ivoire a besoin d'un nul.
Et c'est Cameroun qui reçoit.
Il n'y a plus Hayatou. Il n'est plus là. Le grand magicien Hayatou.
Ouais, Nasser a dit, il n'y a plus Hayatou.
Ah bah oui, il n'y a plus Hayatou. Pourquoi tu crois que Cameroun serait là? Sinon, il serait déjà qualifié depuis longtemps. Mais bon, ils ont une belle équipe. Hein,
ah oui, vu, oui. C'est les Camerounais ou les Ivoiriens?
Les Camerounais. Oula.
Parce que moi j'ai vu les Ivoiriens, je croyais pas mal aussi.
Lundi. On va le voir après, on va le voir dans le calendrier, on va vous le donner. Alors justement, je vais marquer une pause et on va revenir sur les groupes africains, groupe par groupe, en laissant le groupe de l'Algérie pour la fin, parce que c'est un groupe qui va nous concerner en deuxième heure. On va commencer par le groupe B. A tout de suite. Hein.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM.
Bon, vous êtes préparés, la cheminée, soit le plat, soit la pizza, soit tout ce que vous voulez en tous les cas. Bon, vous êtes bien au chaud. Eh bien, c'est parti pour cette Coupe du Monde 2022. Sofiane, on va commencer, comme je l'ai dit, par le groupe B. Alors, le groupe B, il se trouve que c'est celui de la Tunisie. Juste un petit rappel. La Tunisie, c'est 10 points. La Guinée équatoriale, c'est 10 points. Plus 7 pour la Tunisie. Plus 1 pour la Guinée équatoriale. La Zambie, 7. Mais plus 1. Ça veut dire que là, mathématiquement, même la Zambie n'est pas écartée. À moins de mettre une tannée à la Tunisie, chose à laquelle je ne crois pas. Mais par contre, si dans leur esprit, ils se donnent à fond, et que vu le dernier résultat, à savoir la défaite de la Tunisie en Guinée équatoriale, à Malabo, ben, je me dis que, et si la surprise venait de la Guinée équatoriale?
La Tunisie, on les voyait déjà qualifiés.
Moi le premier, franchement.
Là, ce qui va se passer, c'est que les Tunisiens, donc, comme tu l'as dit déjà, si on fait un petit rappel, ils ont perdu en Guinée équatoriale 1-0. Et donc, ce qui fait que la Guinée équatoriale se retrouve à une journée de la fin dans l'incroyable situation dans laquelle elle peut se qualifier. Et ce qui est intéressant dans ce match-là, c'est que les Zambiens, que les Tunisiens vont recevoir dans cette dernière journée, ne sont pas écartés. Donc, il y aura Tunisie-Zambie.
Et Mauritanie-Guinée-Équatoriale.
Et Mauritanie-Guinée-Équatoriale. Et donc, ce qui se passe, c'est que concrètement, la Tunisie devra ne pas perdre, devra gagner.
Oui, devra gagner. Oui,
devra
oui,
gagner,
oui,
pas bien. Ne pas perdre, parce que la Tunisie a son destin entre les pieds.
Oui.
Mais devra gagner contre la Zambie pour se qualifier.
Oui, ça donne. Barrage. Oui, quoi qu'il arrive, ils ne doivent pas calculer. Ils doivent s'assurer de la victoire. Parce que si derrière la Guinée équatoriale vient à gagner en Mauritanie, ils vont se retrouver à égalité. Et là, je suis d'accord avec toi, c'est le goal average qui fera la différence. Puisque la Tunisie, elle est à plus 7, la Guinée équatoriale à plus 1. Oui, le goal average est favorable aux Tunisiens. Et là, mais ça joue une assert sur des. C'est pas grand-chose là. Hein.
Mais à partir du moment où t'as des poules de 3.
4.
3, je dirais que toi, ça fait 4. Tu reçois 3 équipes.
Ouais, ça fait en tout
tu fais un nul, t'as accroché une fois un nul, tu te retrouves avec une finale directe pour le dernier match.
C'est ce qui nous arrive avec la
Oui, bien sûr, tu peux pas. Si t'as 4-5, ça passe. Si t'as 6-7, ça passe. C'est pour ça que quand tu vois l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, tu vois qu'ils ont une poule de 12.
Ils ont un championnat. Eux, c'est 22 journées.
Ils font passer 5 équipes et tout. C'est aussi pour couvrir. Pourquoi ils font passer en Afrique? Pourquoi ils ne mettent pas deux poules de 12-12?
Oui, oui.
Et pourquoi on se rencontre en match aller-retour, on sera un mini-championnat? Ils ne le font pas parce qu'ils veulent que, bon, ils te considèrent toujours.
Comme un petit.
Comme le pourvoyeur de ces gens-là. Et donc, tu te retrouves avec un match de haute intensité, j'allais dire émotionnelle, qui peut mettre à ruine ton équipe et ton pays. C'est pour ça que tu es très friable. On est très friable à cause de ces matchs-là, parce qu'ils sont pesants, ces matchs-là. T'as Burkina, mais après, t'as deux matchs encore derrière en barrage.
Bien sûr.
Mais pas bien sûr, moi, j'accepte pas ce truc-là. C'est inadmissible ce qui se passe aujourd'hui. En 2020, t'es encore nous prendre pour les charbonniers du football. C'est-à-dire que nous, on n'est pas considérés. T'as pas ce qu'a fait la FIFA, qui a protégé tous ces pays européens, qui protègent même ces pays
sud-américains, oui.
Ouais, et l'Afrique, c'est tu viens compléter les groupes. Et déjà, on a montré, hein. Quand tu l'as montré hier, hein, t'as vu Benzema et Mbappé, c'est quand même du sang algérien, encore les gens auraient oublié.
Ouais.
Parce qu'ils ont oublié ça, comme Zidane. Ils oublient tout ça, comme Coppa, comme Platini, comme tous ces gens-là qui apportent et qui font vraiment la diff. Et quand tu vois le monde qu'il y avait, tu vois l'hégémonie qu'il y a eu derrière par les médias et tout, comment ils ont gargarisé toute la journée sur les postes à radio, là on voit que t'es utilisé pour ça.
Ah oui.
Tu viens donner du plaisir. Le plaisir, c'est nous qui le prenons. Et c'est toi qui assume derrière. C'est incroyable.
Et compris le business qui va avec.
Bien, excuse-moi, exactement. On est là-dessus. On est vraiment là-dessus.
Pour simplifier, la Tunisie devra faire mieux que la Guinée équatoriale pour aller en barrage.
Ah oui,
tout simplement.
Voilà. Devra faire mieux. Mes chers amis tunisiens, vous n'avez pas le choix. Il faut gagner ce match.
C'est ça.
Bon.
J'aurais bien voulu qu'on les rencontre, moi, la Tunisie, avec plaisir.
Ah oui, parce que là ils sont prenables. Mais du coup, parce que dans ce fameux classement FIFA, la Tunisie est deuxième après le Sénégal.
Oui.
C'est encore la magie.
Abracadabra.
Alors, dans les cinq qui sont pour l'instant en tête, c'est que des équipes qui étaient à la dernière Coupe du Monde.
Ouais.
Ceci explique peut-être cela.
Ouais. Sénégal, Tunisie, Maroc.
Et Nigeria. Et comme avec le Covid, on n'a pas joué pendant un an, je pense que ça doit être l'explication. Je ne vois pas d'autre explication que celle-ci.
Bon. Avant de continuer dans le groupe C, on va d'abord. Aller du côté du Standard, prendre notre ami Abdelkrim qui nous appelle depuis Grenoble. Bonsoir Abdelkrim. Abdelkrim. Bon, Abdelkrim, il est avec ses enfants, je vous rappelle, donc il est en train d'écouter la radio.
On va passer au groupe C en attendant.
Abdelkrim, je passe au groupe C. Le temps de te récupérer, merci. Alors, le groupe C, je t'écoute, Sophie.
Alors, le groupe C, c'est le groupe du Nigeria, du Cap-Vert, de la République centrafricaine et du Libéria. Ouais. Dans ce groupe-là, le Nigeria est en tête avec 12 points, suivi du Cap-Vert qui en a 10, de la République centrafricaine qui en a 4 et du Libère qui en a 3, donc ils sont éliminés ces deux équipes-là. Et on a un match, je crois que c'est demain ou mardi.
Alors je vais te le dire, oui, c'est ce fameux match.
Entre le Nigeria et le Cap-Vert.
Il faut savoir que Centrafrique était dans le coup, c'est la dernière défaite qu'ils ont eue là.
Cap-Vert.
Ouais, il y a 2-3 jours là, qu'ils ont perdu 2-0. Qui a relancé, qui a fait qu'il y a une finale de
Nigeria-Cap-Vert.
Voilà, exactement ça.
Alors Nigeria-Cap-Vert, c'est mardi, hein, c'est pareil, je crois que c'est ça. À 17h, c'est un peu comme le même, à la même heure que Algérie-Burkina.
Pourquoi je vous dis 17h ? J'ai jamais compris, moi.
Ah, je sais pas, c'est la FIFA qui fixe les règles.
C'est ce qui fixe les horaires, ouais. Et je crois que c'est en même temps que le dernier match, d'ailleurs.
Obligatoire. Non, c'est les télévisions qui fixent les horaires, crois-moi. C'est pas toi, parce que l'Algérie jouera à 20h45. Mais comme ils ont dû privilégier le match Cameroun-Côte d'Ivoire. Tu vois, c'est le match.
Sans doute.
Le match, c'est sûr.
Parce que c'est l'affiche, la grosse affiche,
bien sûr. Bah, tu vas pas, toi, les cocos. Moi, je sais, parce que je l'ai vécu. Quand j'ai vu les matchs de Coupe, ils m'ont donné des horaires de fou. Moi, ils m'ont fait jouer à 14h en Coupe d'Afrique.
Alors, on a c'est un Nigeria-Cap-Vert.
Ouais.
Le Cap-Vert, qui est la petite équipe montante.
Non, c'est pas la petite équipe, c'est fini, ça. c'est fini, ça.
À côté du Nigeria.
Non, ils ont battu l'Algérie des matchs. Hein.
Oui.
Et au bled, s'il vous plaît.
Je sais pas si c'est une référence à Algérie de Madjer, par contre.
C'est, vrai, donc, c'est le nom.
Voilà.
C'est le nom, oui.
Mais qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, le Cap Vert qui est deuxième, qui a 10 points, qui fait une campagne de qualification somme toute honorable. Mm-hmm. Bon, on rappellera quand même que le Nigeria en fait se retrouve dans cette situation parce qu'ils ont perdu contre le Cap Vert dans un match qui, à la surprise générale, 1-0 à Uyo, où le Nigeria ne perd jamais habituellement. Ils perdent 1-0 et du coup ils se retrouvent dans une situation où les points qui leur manquent pour être qualifiés, c'est ces points-là. Et là, ils se retrouvent.
Mais ils jouent au Cap-Vert ou au Nigeria ?
Nigeria le match.
Ah ouais. Et pourquoi ils ont déjà eu l'autre ? Tu me dis, ils ont joué.
Non, parce qu'en fait, si tu veux, Nasser, là, le Nigeria a 12 points, 4 victoires, une défaite.
Ouais.
Oui. Tu me suis jusque-là. Et la défaite, en fait, c'était contre la République centrafricaine.
D'accord.
Et au Nigeria.
Ouais, je me rappelle. Voilà. Ah, d'accord, ok.
Où en fait, si tu veux, les points qui leur manquent là, pour être qualifiés, c'est ces points-là qui peuvent coûter très cher si d'aventure le Cap-Vert venait à gagner au Nigeria.
Il y a du public au Nigeria aujourd'hui, ce match-là ?
C'est une bonne question.
Pour l'instant, visiblement, c'est autorisé. Alors, tout dépend des autorités du pays. Nous, finalement, on a eu droit à nos 14 000. Pour mardi.
C'était vendu tout de suite.
Ouais. J'ai regardé République démocratique du Congo, Bénin, on en parlera après, il y avait quelques personnes au stade. Hein.
Ouais.
Pas, c'était pas 15 000 ou 20 000, mais il y avait quelques personnes.
Bon, ça veut dire que oui, moi, le pays doit accepter des jauges qui ne sont pas énormes, mais ça passe quand même. Voilà. Alors, est-ce que nous avons récupéré Abdelkrim de Grenoble ? Allô ? Abdelkrim ?
Toujours pas.
Toujours pas.
Ici la station Soyouz 5.
C'est assez comique quand même. Hein.
C'est clair.
Bon, c'est pas grave. Alors, on continue avant la pause. Le groupe D.
Groupe D, alors là, le groupe de la Côte d'Ivoire qui est première, du Cameroun deuxième, et voilà, Malawi et Mozambique qui ferment la marche. Alors, dans ce groupe-là, c'est simple. Hein, la Côte d'Ivoire est première avec 13 points et le Cameroun deuxième avec 12 points. Donc là, dans ce groupe-là, c'est la finale donc, qui aura lieu mardi, 17h, on l'a dit. Et dans la
non.
20h. Excuse-moi, 20h. Ouais, exactement, c'est 17h. C'est
et regarde le goal average, plus suite pour les deux. Hein.
Là, ça ne changera rien. Pour
oui,
le
oui, juste là, ça ne change rien.
Parce que si un match nul, les deux équipes prennent un point, donc ça change que dalle.
Là, c'est la Côte d'Ivoire qui passe.
C'est la Côte d'Ivoire qui
passe. En fait, à ce moment-là, la Côte d'Ivoire sera dans le groupe 2. C'est-à-dire dans le chapeau numéro 2.
C'est ça. Et tout autre résultat pour le Cameroun qu'une victoire à domicile éliminerait
c'est
le Cameroun.
C'est ça.
Voilà, c'est simple. Donc il n'y a pas de calcul.
C'est fou là, je suis en train de regarder, je me dis, t'as vu, les Européens ils ramènent tout leur contingent, de grandes équipes dans les Coupes du Monde, l'Amérique du Sud pareil, et à l'Afrique ils se retrouvent, c'est comme si c'était un match Allemagne-Pays-Bas ça.
C'est ça, ouais, c'est pareil.
C'est pareil, oui, tu élimines un de tes contingents africains, mais c'est
quand même, voilà, après quand les Africains vont en Coupe du Monde, quand tu perds ou la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, tu perds un potentiel. Passage au second tour, bien sûr.
Ouais. Après, ils demandent que l'Afrique gagne, fasse des bons résultats en Coupe du Monde, pour pouvoir peut-être bénéficier d'une autre place de barragiste avec l'Océanique qui va battre la station
lunaire. Pour l'instant, mon cher coach, nous aurons droit à 9 représentants en 2026.
Ah, ouais, oui. Parce qu'on est passé à combien ?
À 48.
Ah bah, 48.
Ouais.
Et quand on va passer à 212, on aura combien là ?
Tout le monde. On ne sera pas de ce monde. Hein. Allez, on continue. Donc, le groupe suivant, mon cher Sofiane.
Le groupe E.
Eh oui.
Et où là, c'était déjà, la messe était dite. Hein,
merci, oui.
Le Mali était qualifié. Le Mali qui joue actuellement contre l'Ouganda qui mène 1-0. Le Mali qui est premier de son groupe avec 16 points, qui a réalisé une campagne de qualification quasi parfaite avec 5 victoires, 1 nul. Dans un groupe où il était opposé à l'Ouganda, le Kenya et le Rwanda. Donc le Mali qui, voilà, qui est premier et qui fait figure de, quand même de, d'épouvantail pour ce chapeau 2 qui n'est pas tête de série du coup, mais qui est l'équipe qui monte le Mali.
Absolument pas. D'ailleurs, dans le chapeau 2, on retrouve le Mali, on retrouve la RDC qui s'est qualifiée cet après-midi, et l'Égypte qui s'est qualifiée aussi, je crois que c'était hier, contre l'Angola, après avoir réalisé un match nul de partout là-bas du côté de, du côté de l'Ouganda.
Auquel il faudra ajouter la République démocratique du Congo. Et oui, le vainqueur de Afrique du Sud, Ghana, qui sera dans le chapeau 2 aussi.
Ouais.
Je ne souhaite surtout pas à l'Algérie de tomber sur le Mali. Moi, je te le dis tout de suite.
De toute façon, dans le chapeau 2, quoi qu'il arrive,
oui, Sofiane, tomber,
parce qu'il y a quand même une hypothèse de travail. Hein. Admettons que, parce que l'Algérie peut tomber contre l'une de ses équipes, à condition, bien sûr, de battre le Burkina ou faire match nul. On est d'accord.
De ne pas perdre, c'est ça.
De ne pas perdre. C'est surtout là, ça le plus important. Et car les deux matchs qui restent là, à savoir Ghana, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Cameroun, bah, ça va être du poids lourd.
Non, moi je t'ai dit que le poids lourd, c'est le Mali. C'est pas besoin d'autre chose.
Non, mais le Mali est qualifié.
Oui, je l'ai compris, j'ai bien compris. J'ai dit simplement dans le tirage au sort lors des barrages qui va avoir lieu au mois de mars, je dis, faut surtout pas que l'Algérie tombe le Mali, parce que j'ai dit, ça va être très très chaud, pour pas dire autre chose, mais très chaud. Donc ceux qui m'ajoutent le Mali là. Encore qu'ici, il y a des équipes s'adapter. Afrique du Sud, Mali, ou des.
Oui.
Tu sais, ou. Je sais pas qui je pourrais dire encore. Mais tous ces
gens
qui peuvent se tenir. Mais nous, Mali, non, surtout pas.
Bah, c'est typiquement l'équipe qui a les caractéristiques pour nous emmerder, quoi, le Mali.
Oui. C'est comme à la boxe. Ouais. Il y a des mecs, c'est un chapeau fou. Là, il y a un insider en bas, tu sais qu'il défonce tout le monde.
C'est ça.
Toi, t'es champion du monde, tu fais tout pour l'éviter. Parce que si tu le chopes. Et c'est ce qui se passait, comme ils ont fait ça, des boxeurs et tout, des mecs qui avaient de potentiel pour être là-haut,
bien sûr,
ou des champions qui ont été, et qu'ils ont fait attendre, ils n'ont choisi que des sparring partners à sa hauteur.
C'est ça.
Parce qu'ils savaient personne. Ben on est dans ce coup-là.
On pourrait avoir, par exemple, Sénégal-Mali.
Ouf.
En chat contre voisin. Parce que...
Ça va être.
Donc ça sera encore autre chose.
Ça va pas l'être là. C'est la francophonie qui est en jeu.
Ah ouais.
Ben oui. Francophonie, France-Afrique, appelle-la comme tu veux. Mali, Sénégal, c'est. On va dire,
c'est un vrai choc.
Bah, c'est la bulle protégée de la France. Ah oui, qui a fourni beaucoup de joueurs à l'équipe de France. Alors, on va pas se voiler la face non plus, non.
C'est clair. C'est clair.
Oui, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Mali, ils en ont fourni et ils continuent de fournir. Bah oui.
La machine ne s'arrêtera pas.
C'est clair. Normal. Bah, avec le nombre d'enfants qui mettent au monde, c'est logique. Allez, on va se marquer une pause.
45.
Ouais. On se marque une dernière pause et puis on se retrouve pour la deuxième partie qui va être très chaude. Merci pour votre attente du côté du Standard.
Foot de sport revient dans un.
Ça passe vite. Hein. Eh oui, ça passe vite, mon cher Sofiane. Bien sûr, ça passe vite. Et en parlant de deuxième heure, ben on va directement s'attabler sur. On se met à table, hein, parce que là, on est. C'est un plateau, on va dire. Un big plateau pour le fameux dossier. De cette émission qui concerne ce fameux groupe A dans lequel on a parlé de cette fameuse finale ce soir entre le Ghana et l'Afrique du Sud. On a parlé de la finale Nigeria Cap-Vert. On a parlé d'une autre finale Cameroun-Côte d'Ivoire. Il y a une autre finale qui va arriver, c'est Algérie-Burkina. Mais avant cela, je prends quand même un appel du même si j'ai perdu Abdelkrim, je pense que nous avons Karim et Malik, Karim, bonsoir.
Bonsoir. Encore une fois, merci de me donner la parole.
C'est l'émission qui est comme ça aussi. Hein.
Ah, c'est gentil. Moi, je poursuis simplement ce qu'il a dit Nasser et je persiste comme lui et tout. Et je me dis c'est inadmissible ce qui se passe, que des Africains doivent batailler sur un match. On va dire, j'attends ça des fois, certains pays, il faut qu'ils mettent 10 ans, 20 ans pour revenir en Coupe du Monde. On peut comprendre que l'arbitre des fois et tout, il accorde des buts qui ne sont pas, ou il refuse des buts qui ne sont pas, pour avantager certaines équipes. Tout ça est dû au fait que bon, pour se qualifier en Afrique, c'est une guerre entre pays. Et je trouve que il faut que les gens qui ont un peu du poids, ils agissent, parce que Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est un peu comme l'ONU, il y a 4 pays ou 5 qui décident pour tout le monde. Donc après, quand il y a un problème, par exemple, de réchauffement climatique, on est tous des frères. Ah là, faut venir. Non, sérieux. Ah, faut venir. Le Covid, vaccinez-vous tous. Ah, faut pas. Et après, par contre, pour ce qui est de, j'allais dire, dans ce monde-là, d'exister, on n'est rien du tout. Et moi, je me dis, est-ce qu'il faudrait pas qu'on fasse une Coupe du Monde, nous, en Afrique, pour y aller? Parce qu'on va mettre une vingtaine de pays.
Oui, et carrément un petit peu à l'image de ce qui se fait en Amérique latine aujourd'hui. Bah, la CONMEBOL, c'est quoi? La CONMEBOL, c'est, je crois, une douzaine de pays. Mm-hmm. Et voilà, ils font un championnat de 22 journées. Pourquoi la FIFA admet-elle des éliminatoires sur 22 journées? C'est-à-dire, on est sur un championnat, et nous, en Afrique, on est sur quoi? Même pas 10 matchs, hein, 6. On a en moyenne 6 matchs, tu rajoutes les deux de barrage, ça fait 8. Ça fait au total 8 matchs maximum. Et les Sud-Américains vont jouer 22. J'ai regardé le classement et je me suis dit, mais ils finiront jamais. Et quand j'ai regardé la suite du calendrier qui va se terminer en mars prochain, je me suis dit, eh ben, ils sont vraiment bien garnis, les Sud-Américains. Par rapport à l'Afrique, quoi, il y a une espèce de mépris, une espèce de hagarisme. Ouais, voilà, pour l'Afrique.
C'est pas demain, je te promets, c'est pas demain que ça changera. Ouais. Il ne faut rien attendre, il ne prend rien du tout.
Bah parce qu'on a des dirigeants incapables, ouais. C'est tout.
C'est ça.
Les dirigeants du football africain sont des incapables. Ils sont élus, ils ont leur place, ils sont au siège de la CAF, au Caire. Ils ont leur strapontin, ils ont leurs émoluments. Et puis, on leur dit de voter, ils votent. Et pour le reste, ils s'en fichent royalement que tu passes ou pas. Hein. Voilà, c'est le cadet de leurs soucis.
C'est clair, quand tu sais ce que représente un peu le football pour les Africains.
Bien sûr.
Ils se raccrochent à ça, c'est beaucoup de joie et tout. Mmh. Mais comment toi, tu peux leur dicter comme ça une sorte de dictature où personne, t'es intouchable, tu fais ce que tu veux et tout. Je sais pas, moi je comprends pas.
Et Karim, c'est là que tu vois également le poids important des patrons des fédérations sud-américaines. C'est-à-dire que ce soit le patron de la fédération argentine ou brésilienne. Rappelez-toi, à une époque, le patron de la FIFA, c'était un certain João Avalanche, qui était brésilien. Ouais. Ensuite, il y a eu, comment s'appelle, le Teixeira, qui est venu comme étant le patron de la fédération brésilienne, avec l'Argentin Grandona. Donc, c'était des bonhommes hyper puissants et qui ont fait ce qu'ils voulaient avec leur continent. 11 pays, 5 représentants en Coupe du Monde, et 22 journées de championnat. Ouais, voilà.
Ben, c'est un truc de fou, ça peut pas continuer. Mmh. Moi, je vais terminer simplement sur ça, Mohamed. Je dirais que je reprends juste c'est l'histoire du Youssef Attal.
Oui,
je me dis, Youssef Attal, à un moment donné, il a fait une très grosse saison. Et on a tous cru qu'il allait se retrouver au PSG, à Manchester. Ouais. Non, il est resté sur place. C'est comme ça. On va dire, il n'amène rien de. Donc, ils n'avaient aucun intérêt avec lui. Donc, ils représentaient une sélection dont ils n'avaient pas envie. Donc, je me dis, voilà quoi, c'est inadmissible que ça puisse continuer comme ça, quoi. Il faut que les Africains puissent se fédérer et les pousser. Parce que sinon, voilà quoi, on va parler. Voilà.
Mais Karim, on a toujours milité ici à BRFM. Je sais qu'à une époque, on faisait des émissions et puis 3-4 semaines après ou un mois, tu entends des décisions qui sont prises. Bien sûr, on ne va pas dire qu'on a écouté ça à la radio, mais. Parce qu'on avait apporté des idées. Mais aujourd'hui, je suis entièrement d'accord avec toi sur aujourd'hui la refonte des éliminatoires africaines qui ne peuvent pas rester comme ça. Et je trouve ça ignoble, quitte à couper le continent en deux. Et puis, dans chaque. Ouais. Voilà. Mais tu ne peux pas rester comme ça sur cette base d'un continent de 52 pays dans lequel tu fais un écrémage longue durée pour arriver à 8 matchs au final. Et tu prends une confédération comme la CONMEBOL qui regroupe uniquement attention, la CONMEBOL ne regroupe que l'Amérique du Sud, hein, parce que la CONCACAF c'est l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord plus les Caraïbes. Donc tu prends la CONMEBOL, c'est à peu près 11 pays à partir, ça veut dire que le Mexique n'est même pas inclus là-dedans. Tu prends à partir du Venezuela, tout ça, l'Équateur et tout, et jusqu'à la Chili, Argentine, et ben 11 pays, voilà, même je crois, mais même ils sont 12, hein, donc je sais que ça doit leur faire 22 journées d'éliminatoire. D'abord, je n'ai jamais vu, y compris au niveau européen, des éliminatoires sur une base de 22 journées. J'hallucine, quoi, simplement. J'hallucine.
Ouais, non, mais comme je te dis, voilà quoi. Simplement, voilà, pour le changement de la terre, c'est oui. bon, mais pour le reste, adieu, il n'y a personne.
Ouais.
Donc, on n'est pas étonné à force de voir ça à nous. On n'est pas surpris parce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et c'est pas prêt de changer. Enfin, j'espère que ça changera, mais je suis pas optimiste et tout. Ouais. Et donc je remercie Nasser d'avoir soulevé ce problème. Et voilà quoi, c'est quelque chose de très important. Il n'y aurait pas cette bagarre aujourd'hui pour essayer de. Il y en a certains, ils ne sont jamais allés comme pays africain.
Mais quand même, je vais aller encore plus loin, c'est plus qu'un manque de respect, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce monde-là qu'on vit, dans un monde où les réseaux sociaux flambent comme c'est pas permis, où l'information circule comme c'est pas permis, on est encore aujourd'hui obligé d'accepter une disproportion entre les pays et les continents. Comment tu peux accepter qu'un pays comme un continent comme l'Afrique, qui a plus de 53 pays, se retrouve à 5, et quand tu vois qu'en Europe, il en est 13, 14, 13 plus les 3 barrages, je sais plus, 10 ou 13, je sais même plus. C'est-à-dire tellement que le surnom est là, c'est-à-dire qu'il prime là-dessus. Et quand on sait que le football vient de ce pays-là, vient d'Afrique aussi.
En plus.
Par contre, on les utilise bien dans toutes les sélections, dans les histoires des doubles nationalités. Hein.
T'as un cas similaire, c'est l'Asie,
qui
a 46 fédérations et qui n'en voit que 5 ou 6 en fonction, parce qu'il y a un barrage.
Mais il débute dans le football. On va dire, il débute. Ouais. En termes d'année, il débute.
C'est ça. Merci, débute. Il faut pas.
Nous, on y est depuis la nuit des temps.
C'est ça. C'est pas le continent du football, c'est pas pour être méchant avec eux. Hein. Mais voilà, les Africains, comme dit Nasser, ils ont fourni les équipes et tout européennes.
Ouais, oui.
L'apartheid et tout, voilà, ils sont dénigrés. J'espère, je te remercie encore une fois, Nasser, pour avoir suivi ça. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à tous.
Merci Karim pour ton appel.
Merci.
Voilà, et puis je reprends rapidement Malik. Alors, lui, Malik. Alors, je pense que Malik va nous donner la compo pour mardi.
Bonjour à Mohamed.
Bonjour Malik, comment il va?
Bonjour à Nasser.
Bonjour à Malik.
Bonjour à Sofiane.
Salut Malik.
Et bonjour à de l'autre côté à Nawel.
Bien sûr.
Voilà. Mohamed, quand je passe, tu passes à l'équipe, s'il te plaît. Hein. Tu vas chercher lui, c'est un grand footballeur.
Voilà,
tu vas changer. Même si tu as tapé chez lui.
Tu parles de qui?
Abdelkrim.
Ah oui, de Grenoble, oui. Mais attends, je l'ai perdu, je ne sais pas comment.
Tu l'as appelé chez lui. Voilà.
Je l'appelle chez lui.
Tout ça, c'est un match à condamner à gagner à Alger. Vraiment. Méfie-toi, cette équipe de Burkina Faso, ils ont des bons joueurs. Là.
Bien sûr.
Voilà. Non, c'est normalement, on a l'équipe d'Alger, ça a condamné de gagner Alger.
Il faut faire le match pour marquer les esprits.
Il faut jouer.
Bah oui.
Il faut mettre au fond.
Alors, d'après toi, Nasser, c'est quoi? C'est marquer un but rapidement pour
courtier,
on va dire, le poussin dans l'œuf.
Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. L'entraîneur là, il a dit on va gagner Alger. Ouais, je veux la presse algérienne comme ça, Fais méfie-toi cette équipe. Hein. Je te dis la première fois et la dernière fois. Voilà. Ils ont des joueurs qui jouent à l'étranger.
Je sais, ils ont aussi.
Ils ont des joueurs qui sont blessés.
Hein. Ils ont beaucoup de titulaires qui sont blessés, même.
Voilà. On a joué, on a des joueurs et tout ça. Bon, on a joué avec Djibouti, on a gagné, c'est bien. Et tout ça. Ouais. 13 points, eux, ils ont 11 points, ils ont fait match nul avec Niger. Et tout ça, mais ça a gagné parce que c'est Burkina Faso et tant que l'Algérie, c'est eux qui sont qualifiés au match de barrage. On a des joueurs, on a des bons. Zorgan, il a bien joué contre Djibouti, le petit Zorgan.
Il était dans l'équipe de départ.
Oui, il est bien, on l'a bien. Il est bien. Tout le monde est de Zorgan, Abdelawi, Badra et tout ça. Même Badra, il est beau. Hein. Voilà.
Badran face au joueur physique, il est pas top, il a surpris.
Il est bon, même utilisé par de lui, il sera un bon joueur, c'est un bon top.
Oui, parce qu'il est allé à l'Espérance.
Voilà, l'Espérance, même à Dawid et Pierre, il est en forme. Voilà, maintenant, Mohamed, il faut qu'il met en forme et tout ça, voilà.
Maintenant, il faut les mettre.
C'est quoi l'entraîneur de la GSK, là, et tout ça? Qu'est-ce qu'il fout, là, même? J'ai entendu quelqu'un, il m'a dit, l'entraîneur de Bidjaya, c'est ça. d'Alger. Quand ils jouent avec le courant. C'est quoi ça? On n'aura même pas la mode islamique à la GSK. Voilà. Ils ont même entraîneur, je ne sais pas où il vient d'où et tout ça. Et la plupart des joueurs sont partis. C'est quoi ça?
C'est la GSK 2021.
Voilà, c'est pas bon. Tu joues avec le courant. Où tu as vu ça? Il met le courant, le président, et il met la coupable, c'est quoi ça? Voilà.
Ben écoute, moi je suis d'accord, quand tu joues au foot, tu joues au foot. Hein.
Quand tu joues au foot, c'est pas avec le courant. Quand je connais ça. Il y a quelqu'un qui est depuis Yannick, je ne sais pas qu'il a ramené le président.
Ça, je ne sais pas.
Je casse la mafia. La grande mafia et tout ça. Voilà. On ne sait pas qu'il a ramené ça et tout ça. Voilà. Bon, on a dû jouer à Mohand. Ouais. Il m'a dit, maintenant, c'est qualifié mondial. Sur mon match de base, ça dépend. J'espère qu'on ne va pas rencontrer l'Égypte.
Voilà. Non, moi j'aimerais bien rencontrer l'Égypte.
Non, tu rappelles
Le match retour, il va de chez nous.
Il va avoir peur. Partout et tout ça.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait peur à l'équipe d'Algérie? Je veux dire une chose. Il y a le Mali qui me fait peur.
Le
vainqueur de Côte d'Ivoire Cameroun qui me fait peur aussi. L'un des deux, si jamais il passe. Oui, l'un des deux, il me fait peur. Après, dans Ghana, Afrique du Sud, bon, c'est du 50-50. Mais Mali, ou Côte d'Ivoire, ou Cameroun, oui, ça, j'ai plus peur. Les autres, un peu moins.
Parce qu'il m'a dit à Malia, il m'a dit, bon frère, mais fais-toi les Maliens. Et c'est des enfants qui sont nés ici, tous.
Oui.
Ils jouent à l'étranger.
Des Maliens, ils sont nés en France, mais ils adorent leur pays.
Les gens vont pas, il m'a dit. Les gens frères vont pas, là, on verra ça. Là, on a Blaïdé Boudjina, Les deux acteurs,
Blaïdé
commence à bien jouer là.
Mais là, il a joué contre Djibouti, il m'a dit, va voir. Blaïdé, mets-le contre le Mali.
Mais il a marqué. Il y a un peu Boujnah là, je sais pas ce qui se passe.
Ouais, mais Boujnah, je sais pas, à force de jouer au Qatar, il a plus de rythme, il a plus de jus.
Il faut qu'il monte sa valeur.
Ah oui. La valeur, il faut que je joue en Europe.
Voilà.
Et tu vois, attends, mais tiens, en fait, attends, avant Amelika, attends. Tiens, les Footix ont déclaré. Attention, les Footix ont déclaré que Xavi était sur le point de recruter Bounja.
J'ai entendu, il y a
une formation qui circule. Mais attends.
Un Marocain, il m'a dit qu'ils vont recruter Bounja.
Mais ils ne vont pas le recruter, mais t'es fou, toi. Voilà. Attends, ils ramènent quelqu'un des championnats du Qatar pour faire la Liga espagnole. Mais il y a Malik.
Ils ont joué ensemble.
Oui, mais ça n'a rien à voir, c'est pas le même rythme.
Business aujourd'hui.
Oui, mais au Qatar, ils jouent à deux à l'heure. Il ne peut pas tenir le rythme espagnol.
Il faut qu'ils
parlent
en Europe. Il
ne
faut pas qu'ils restent tout ça. Il y a un certain âge, il a 29 ans.
Ouais. Il veut pas.
Il est bougenard, hein.
Mais non, t'as dit, je paye pas des impôts, donc il reste en Qatar.
Il faut qu'il monte en Europe et tout. Plus on a des joueurs, il y a beaucoup de joueurs. On a un jeune là qui joue à Angers là.
C'est pas le moment, mais ça y est.
Plus tard, il a du bras aimé.
Non, mais Malik. Malik, pour l'instant, je veux dire une chose. Pour l'instant, pour la Coupe du Monde, c'est même pas la peine de proposer des joueurs, c'est fini.
Pour la Coupe du Monde, il va avoir des nouveaux. Des nouvelles têtes.
Bon, c'est l'heure de la pub, Malik. Mais tu peux pas. Bon, Malik, merci. Allez. Bonne soirée.
Bon, je passe un grand bonjour à la famille Boisis.
Voilà.
À l'Allée d'Argile. Et je passe un grand bonjour à mes amis Tunis et Suisse. Et dès que vous passez beaucoup de gens, il faut que tu viennes à l'Allée d'Argile, tu montes.
Ouais, mais je le sais. On va attendre.
Tu ramènes la voix là. D'accord. On arrête de l'Angleterre.
On va programmer ça. Mais ça arrête à Malik.
Merci. Au revoir.
Alors juste, messieurs, avant de la pause pub, un petit résultat. Vous savez, la Macédoine du Nord a été rejointe au score. Donc du coup, la Macédoine est troisième avec 16 points. Et c'est la Roumanie qui passe devant avec 17 points. Donc c'est un groupe qui reste très serré. Il reste, on va dire grosso modo 30 minutes dans ce match. L'Allemagne, pas de souci, elle mène 3-0 face à l'Arménie. La Roumanie qui mène seulement 1-0 face au Liechtenstein. Et puis après, donc, il y aura les matchs de 20h et de 20h45.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. sport. De foot de sport.
Voilà, avant de prendre des crèmes du côté du standard, je sais que vous êtes nombreux, je vous demande juste d'avoir un minimum de patience pour passer, il n'y a aucun problème là-dessus. Et juste une précision, mon cher coach, puisque dans ce fameux dossier, on revient sur le match de l'Algérie face à Djibouti, au-delà du score bien sûr, le match joué en Égypte, bah, c'est surtout cette histoire d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, car il faudra attendre la toute dernière journée pour espérer se qualifier, parce que quand on dit aux gens qualifiés, on n'est pas qualifié pour la phase finale de la Coupe du Monde, on est qualifié, si on est qualifié, c'est d'abord pour les barrages africains. Je rappelle la règle, les 5 premiers du classement FIFA vont rencontrer les 5 seconds au classement FIFA. Alors pour l'instant, côté qualifié dans le tableau numéro 1, c'est-à-dire ceux qui auront l'avantage de recevoir au match retour, nous avons le Sénégal et le Maroc qui sont qualifiés. Ballotage favorable, la Tunisie, l'Algérie et le Nigeria, puisque l'Algérie a quand même 2 points d'avance sur le Burkina, tout comme les histoires du Nigeria aussi. La Tunisie qui est à égalité avec la Guinée équatoriale. Par contre, dans le classement du groupe B, c'est-à-dire ceux qui devraient prendre les places de 6 à 10, on a l'Égypte, on a le Mali, on a la RDC qui, eux, se sont déjà qualifiés.
Ouais.
Il reste deux strapontins qui vont sortir des chapeaux des matchs Ghana, Afrique du Sud et Côte d'Ivoire, Cameroun. Ça veut dire qu'on aura deux équipes qui vont sortir de ces matchs, qui vont rejoindre le tableau numéro 2. À condition, je précise bien, à condition bien entendu, que l'Algérie ne fasse pas chou blanc contre le Burkina, auquel cas, c'est l'Égypte qui passerait en 5e position du groupe A, et le Burkina va intégrer le fameux groupe B, tout simplement.
Oui, c'est ça. Exactement, là, on a fait le tour de ces potentiels... potentiel groupe de tirage au sort, chapeau de tirage au sort qui auront lieu le 18 décembre à Doha.
C'est ça, un an avant la finale de la Coupe du Monde de 2022.
C'est ça, exactement. Et du coup, c'est. Bon, on va pas s'avancer, mais c'est vrai qu'on a un chapeau 2 avec la RDC qui fait figure de grande surprise parce que eux, c'est fait, c'est qualifié.
Ça y est, c'est qualifié.
C'est fait. Sur le papier, l'Égypte, c'est l'épouvantail. Moi, je mettrais le Mali aussi. Attention.
Ah oui,
attention.
Je mettrais plus le Mali que l'Égypte.
Ouais. Et attention aussi, l'Afrique du Sud ou le Ghana, parce que c'est pareil, une des deux équipes ira dans ce chapeau 2. Donc on a un chapeau 2 quand même...
Très costaud.
Ah, en même temps, c'est bon, ouais. C'est ça, c'est une finale. Hein,
oui. Mais quelque part, on va avoir de très, très bonnes nations, mais il y a quand même de grosses équipes qui vont disparaître.
C'est ça.
Coach, donc toi aussi, forcément, tu as suivi ces éliminatoires. Tu vois qu'aujourd'hui, il y a des équipes, elles sont à peu près... Je prends l'Algérie et le Nigeria qui sont à peu près dans le même cas de figure, à savoir que même si elles ont 2 points d'avance, elles ont un gros lavérage, mais attention à l'accident à domicile. Quoi. Comment tu maîtrises, comment toi tu joues un match comme ça, Nasser, à couteau tiré, comment tu essaies de le gérer ou de le maîtriser pour que tes garçons puissent, enlever tout le stress lié à l'enjeu même du match.
Ben, ça dépend des joueurs que tu convoques. Hein. Si tu convoques des joueurs qui ont des grandes expériences dans leur club et qui ont des vrais vécus, des grands vécus avec des pressions énormes et qui gèrent, on le voit bien avec Mahrez qui lui gère ça formidablement bien, puisqu'il est à Manchester City, il fait des Ligues des Champions, des demi-finales, des finales. T'as beaucoup de joueurs qui savent le stress coule sur eux, ou du moins ils le régulent bien. Ils le régulent bien, ils ont les mots ou les phrases ou les comportements qui vont avec. On a beaucoup de joueurs. C'est là que tu vois quand même l'effet des clubs et des joueurs qui viennent de très haut niveau. C'est le genre de gestion. C'est pas l'entraîneur qui va venir en 3 jours, qui va inventer une. Par contre, il va essayer de débrancher la pression, puisque la pression, elle est bonne pour t'activer, mais elle est pas bonne quand elle est sur du long terme, parce qu'elle peut t'amener sur des choix ou des façons de fonctionner qui vont pas être connues dans le match. Par contre, le Burkina Faso, lui, ça fait 2 fois qu'il vient faire des matchs comme ça chez nous. C'est aussi ça. L'erreur à surtout ne pas commettre, c'est de prendre le match de Djibouti comme une référence. C'est pour ça que quand j'écoutais notre ami, c'est un peu quand il parlait des joueurs qui jouaient, oh, il a bien joué, il a bien joué. Oui, mais ça, c'est Djibouti. Djibouti, c'est Djibouti. Là, tu joues autre chose. Ça n'a plus rien à voir. Par contre, le match, la deuxième mi-temps du match de l'Algérie de là-bas, au Marrakech, contre celui-là, donne une autre référence. C'est celui-là que tu dois voir, c'est celui-là que tu dois travailler, parce que le match, il va se jouer là-dessus. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup d'absents au Burkina. Je crois qu'on a annoncé cinq joueurs cadres de l'équipe.
Dont le gardien de but,
ouais. Voilà. Donc, je peux comprendre que Jamel est en phase d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir traiter ce match-là. Donc, nous, on les a pas. Donc, c'est clair qu'on va hypothéquer les choses les plus compliquées, qui est de, avant tout, dans ces genres de matchs-là, il faut jouer réellement pour la gagne. Il faut surtout pas être dans le calcul, parce que le calcul n'existe pas, déjà d'une. Et dans ta tête, ça va te rassurer. Et tu peux prendre n'importe quelle situation de jeu qui peut se produire dans les arrêts de jeu ou n'importe quoi, n'importe quel moment, surtout en Afrique, je ne dis pas. Et en plus, il y a une donnée qui est importante. C'est que la météo annonce là des violents orages en Algérie et sur Alger pendant le jour du match. Donc ça veut dire que le terrain, il va prendre, ça va être la puissance qui va primer. Mais vraiment, hein, sur le plan physique, là, tu vas voir ce qui se passe. Et moi, si j'ai une chose, une crainte que j'ai sur eux, moi, c'est ce qui dégage physiquement. C'est des Golgothes, quoi. C'est pas de la rigolade, quoi. C'est pas de la plaisanterie. Tu joues pas de Djibouti. Oui, tu joues pas la Mauritanie, là.
On les appelle les étalons
du Burkina, ils ont de quoi faire.
Ils ont la vitesse en plus. C'est pas dégueulasse le Burkina aussi.
Ils ont les joueurs. S'ils étaient complets, on va se poser des questions. Mais bon, là, bon, maintenant on va penser qu'on est sur la spirale, on a gagné, tout est bon, tout est gentil, tout est mignon. Mais bon, on sait que ces matchs-là, ils sont faits pour être ça. Ça et les deux matchs qu'il va y avoir derrière, lors des qualifs.
Très bien, on va prendre tout de suite Abdelkrim de Grenoble. Juste comme nous sommes aussi en live sur les matchs éliminatoires de Coupe du Monde, la Macédoine du Nord vient de repasser deuxième puisqu'elle a marqué un deuxième but contre l'Islande. La Roumanie mène toujours 1-0 l'Islande. Hein, l'Allemagne qui mène 4-1 en Arménie, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, aujourd'hui, la petite surprise, ce serait cette Macédoine du Nord. Il reste encore 20 minutes dans cette rencontre. Abdelkrim, bonsoir, bienvenue sur BFM.
Oui, salam alaikum.
Alaikum salam, on t'écoute.
Mohand Marif et. Je peux le dire sur mon famille, Mohand. Ouais. Coach Sanjak, qui est votre ami Sofiane, si je ne me trompe pas.
Ben oui, non, il peut dire.
Et après, je ne sais pas si Nawal elle est revenue ou pas, parce que je crois qu'elle était revenue il y a deux semaines.
Oui, elle revient de temps en temps, on fait faire ce qu'on appelle des focus visuels. Quand il y a des événements, on les prépare ensemble, c'est pour ça.
D'accord, des événements sportifs.
Ah, toujours sportifs, bien sûr. Oui.
Ok, d'accord. Bon, voilà. Et je vais passer vite fait là parce que je sais qu'ils m'écoutent. Je vais passer le bonjour aux membres de DZ Foot. Mmh. Voilà, de la part de Algérien, le spécialiste du football africain.
Ouais.
Alors, la plupart des intervenants, ils ont tous parlé du match de l'équipe nationale. Mais comme j'avais dit la dernière fois, je vais pas. En fait, je vais dire comme eux. Donc,
tu as raison, Delcrim. C'est pour ça que j'ai mis en valeur dès le début de l'émission le travail de Vaïd avec l'équipe du Maroc. Il n'y a rien à dire.
Hein. Ouais, à propos justement, j'ai parlé de l'équipe du Maroc. Vous avez bien fait de parler de coach Vaïd, bon, tout ça. Moi, c'est pas de l'entraîneur que je vais parler, parce que voilà, c'est un grand entraîneur, il peut présenter, il nous a qualifiés, comme vous savez, historiquement en 8e de finale de la Coupe du Monde 2014.
Bien sûr.
Voilà, même si un an et demi avant, il avait raté la salle à la CAN 2013, avec son premier tour. Mais bon, à l'époque, on avait le Hajj Araraoua qui est un grand connaisseur du football, et heureusement qu'il n'a pas écouté la presse poubelle algérienne pour virer Vaïd après l'élimination au premier tour de la CAN 2013.
C'est vrai, ouais.
Il y en a beaucoup qui voulaient sa tête. Alors, moi, concernant l'équipe du Maroc, je vais parler d'un fait, vous n'en avez pas parlé, et jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment ça se fait. Il faudrait m'expliquer comment ça se fait que les trois... je sais qu'il y a pas mal de stades en Afrique qui ne sont pas en normes, dont les trois adversaires de l'équipe du Maroc, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et le Soudan. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment se tirer une balle dans le pied si toi, tu reçois ton adversaire numéro 1 dans la poule chez lui. Alors que, je vais donner un exemple pour faire vite. La Guinée-Bissau, lors de la première journée, elle a reçu en Mauritanie, en Ouakchott, la Guinée-Conakry. Le Soudan, lors de la première journée, a reçu chez lui à Khartoum, donc son stade il était validé. La Guinée-Bissau. C'est lors de la deuxième journée, je me suis trompé, voilà, pour le Soudan. Et la Guinée-Conakry, après le coup d'État, il ne pouvait pas rejoindre ce jeu, et j'ai lu dans un site du football guinéen, Foot 224, que la fédération officiellement guinéenne avait contacté la fédération sénégalaise pour recevoir l'équipe du Maroc au Sénégal. Et je ne sais pas ce qui s'est passé après tout ça. La fédération marocaine, je ne sais pas comment elle a réussi à faire pour recevoir cet adversaire à domicile. Et c'est pas normal. Pour moi, l'éthique sportive, elle n'a pas été respectée. Vous vous rendez compte? Imaginez si l'équipe d'Algérie avait reçu nos trois adversaires au stade du 5 juillet.
C'est ça,
c'est le deuxième stade qui est en norme,
ouais,
au niveau de la CAF, après Blida. Vous aurez trouvé ça normal?
Mais bien sûr qu'il y a matière à discuter. On va dire oui, c'est pas normal.
Alors, ce qu'on pose, coach.
C'est une très bonne question, mec. Tu sais comme moi que les règles, les lois qui régissent dans ce continent sont volatiles. Ça veut dire que sûrement qu'il y a dû avoir. Je peux penser que les terrains qui n'ont pas été aux normes, ils ont été remis aux normes. C'est-à-dire que les critères ont été acceptés. C'est-à-dire que tu as un dossier, sûrement il est ouvert. Le dossier d'organisation, il est toujours ouvert. Et si tu ne remplis pas ces conditions-là, le match n'a pas lieu. Mais si tu les remplis, même en cours de qualification, ton stade peut être récupéré. C'est pour ça que l'Algérie a joué au Niger. Là-bas, quand elle avait ses matchs, elle les a fait à Marrakech, oui, contre le Burkina, ce qui nous a pas coûté grand-chose. Pas coûté. Si, les heures d'avion, parce que c'est, oui, énorme. Et ça joue. Moi, je pense que c'est la seule raison qu'on pourrait voir là-dessus, hein, tu vois.
Le fait, oui, mais que... comment expliquer que, oui, ton adversaire numéro 1, le favori du groupe, le Maroc, comment ça se fait qu'ils ont réussi? Après, je pense à ce que tu disais avant, les histoires des coulisses, parce qu'il faut savoir que... j'ai regardé dernièrement l'organigramme de la Confédération africaine de football. Et ben, je me suis aperçu qu'il y a pas mal de Marocains, de Tunisiens et d'Égyptiens.
Très
et
bien.
Je sais qu'ils ont le bras long. Pour faire en sorte que leur adversaire joue chez eux au lieu de jouer chez un autre. Par exemple, si la Guinée-Conakry elle avait joué au Sénégal, le Maroc, ou si le Soudan avait reçu, à la base, le Soudan aussi devait recevoir le Maroc en Égypte. Alors que là, mort de rire, le match retour, ils l'ont joué à Rabat. Alors qu'à la base, ils devaient jouer en Égypte. Ou tu prends la Guinée-Bissau, elle aurait pu recevoir le Maroc en Mouakchott. Je veux dire qu'il y a des trucs qui sont bizarres.
C'est officiel.
Moi, je pense que les coulisses au niveau de la CAF, c'est important.
Oui, mais c'est bien ce que tu dis, c'est exactement ça. Il faut bien que tu saches que le Maroc a été porteur d'une mission qui est la sienne, c'est d'inviter tous les clubs qui n'étaient pas, qui n'avaient pas leur terrain homologué, et de jouer tous ces matchs-là au Maroc. Et derrière ça, il y avait aussi l'avion gratuit, la mise à disposition du stade gratuit, l'hôtellerie gratuite.
Carrément, l'avion gratuit.
Ah oui, oui, gratuit. Oui, oui. Mais en contrepartie, quand il faut voter, il faudra voter pour le Maroc. C'était dit, c'est clair. C'est ça le jeu.
Le jeu, il est là. Pourquoi exactement?
Ben pour les votes.
Les instances de la CAF. Voilà, c'est normal.
Ouais, mais par contre, je suis d'accord avec ce que dit Nasser. Mais par contre, je suis désolé. Franchement, moi, si j'étais un adversaire du Maroc, jamais de la vie, j'accepterais de jouer le match à domicile chez moi, chez lui. J'irais jouer dans un autre pays africain. Franchement, pour moi, c'est tirer une balle dans le pied.
Djibouti.
Non mais avec
Djibouti a refusé d'aller au Maroc. Ils ont accepté le match. C'est-à-dire que le gouvernement le voulait en Égypte et la fédération le voulait au Maroc parce que c'était mieux pour eux. Ben, le gouvernement, c'est lui qui a gagné. Il a dit le match aura lieu en Égypte. Il a eu lieu en Égypte.
Ouais, mais je suis d'accord avec ça. Je suis au courant cette affaire et tout ça.
Voilà,
mais je tiens à dire que c'est pas le même exemple que je voulais dire. C'est comme si en fait l'Algérie elle aurait reçu le Burkina Faso, le Niger, Djibouti au stade du 5 juillet par exemple. Ils nous auraient reçu.
Alors qu'en même temps, elle est partie prenante dans le même groupe.
Je connais très très bien le football africain. Moi, je tiens à le dire, que ça plaise pas. Franchement, il n'y a pas de fierté de se qualifier en barrage en jouant tous ces matchs à domicile. D'accord. Même si c'est pas le même stade, ça revient au même. C'est comme si l'Algérie, elle aurait joué ses adversaires au 5 juillet et le match retour, on les aurait joués à Blida. franchement, franchement, parce que moi, j'aimerais bien voir, parce que comme je vous ai dit, hein, moi, cette équipe du Maroc, j'ai remarqué, à l'extérieur, ils sont pas top. Hein. Ils gagnent très rarement. J'aurais bien aimé voir cette équipe du Maroc jouer à Khartoum devant un public surchauffé soudanais ou jouer à Conakry, une pelouse qui ne réussit pas avec l'équipe nationale de Guinée.
Il y a la possibilité, à savoir, ils peuvent tomber sur l'Égypte, comme ils peuvent tomber sur le Mali ou la RDC.
Oh, mais attends, Mohamed, le Mali, apparemment, il reçoit Agadir. Il a joué tout à l'heure, ils ont gagné 1-0, mais c'était un match contre Côte d'Ivoire pour le Rwanda.
Attends, là,
tu m'as dit.
À Agadir ?
Tu sais quoi, à Mohamed, retiens-moi ce que tu dis. Mohamed, tu vas rigoler. Moi, je te parie ce que tu veux. Après, moi, je vais dire que sans les barrages, personnellement, je crains qu'une seule. Franchement, avec deux équipes que je crains personnellement, parce que je connais bien ces équipes-là et tout ça, c'est l'Égypte par rapport aux coulisses, comme il l'a dit Nasser. Voilà, vu qu'ils ont le bras long, et en plus, jouer en Égypte, c'est jamais facile. Et la deuxième équipe que je crains, c'est le qualifié entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire.
C'est ça.
Le reste, pour moi, sera un bon tirage. Tu peux pas faire mieux. Sinon, c'est même pas. En plus, on peut oublier une chose. J'ai regardé tout à l'heure une vidéo d'une émission égyptienne. Et le commentateur égyptien a demandé à un spécialiste du football égyptien, il a dit toi contre l'équipe nationale qualifiée, quelle équipe vous voulez éviter en barrage et qui vous voulez avoir? Et ben il a dit je vais éviter l'Algérie et le Sénégal, et il a dit de préférence il souhaite si elle se qualifie avoir la Tunisie. Et tout à l'heure aussi j'ai regardé la télévision congolaise, oui. Il souhaite éviter à tout prix. Nous on est champions d'Afrique, hein. Donc ces équipes là, elles aussi elles veulent nous éviter.
Oui c'est vrai, oui mais après tout c'est la règle, hein. Ouais. En tout cas, Abdelkrim,
voilà, mais c'est pas un cadeau de jeu contre champion d'Afrique, ouais. Avec un match retour à Blida. Mmh. Tu vois en ce que je veux dire. Mais c'est pour te dire, pour faire vite, que le Mali, il joue à Agadir. La République du Congo, elle reçoit chez elle à Kinshasa. Ouais. L'Égypte, elle reçoit chez elle, nous aussi. L'Afrique du Sud aussi. Oui. Le Ghana, c'est pareil. C'est juste pour dire que j'en suis sûr et certain. Pour vous montrer, parce qu'il y a eu beaucoup de déco par rapport au match le retour le Niger. Moi, je porte pas trop d'attention. Comme quoi, comment ça se fait que le Niger, il a reçu le Burkina Faso en Marrakech, et comme par hasard, dès que nous, on les joue, ils nous reçoivent chez eux à Noël. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais il y a des trucs qui sont bizarres, et je prends le cas du Mali. Ouais. Si on tombe contre le Mali, vous allez voir que le match retour, enfin le match aller plutôt, il aura lieu à Bamako comme par hasard. Le stade du 26 mars, il va être validé. Parce que je veux dire, j'avais dit à l'enfant dans une des émissions, il y a un mois ou plus, j'avais dit, tant qu'on n'aura pas d'Algériens au niveau de la Confédération africaine de football, on pèse rien du tout.
Voilà. Mais aujourd'hui, on pèse rien. Mais Abdelkrim, tu as raison. On ne pèse rien du tout sur les instances africaines.
Les Tunisiens, en coulisses, ils travaillent. Les Égyptiens, pareil. Les Marocains, c'est dernièrement, grâce au corrompu d'Ahmed Ahmed et son complice Fawzi Legdja, qui lui aussi, il n'y a pas les mains propres. Eux, c'est dernièrement les Marocains. Mais les Tunisiens, ça fait longtemps.
Mais...
Et j'ai regardé en plus, à chaque fois, je vois les arbitres qui arbitrent les rencontres de ces équipes-là, les équipes nord-africaines. Je m'aperçois que c'est des arbitres expérimentés. Et là, on nous envoie un arbitre des Comores, lors du match contre même si on était qualifié. On nous envoie un arbitre du Botswana qui nous a privé d'un pénalty flagrant au match aller à Marrakech. Nous, on nous envoie que des arbitres Rolti. Ils leur mettent des arbitres expérimentés.
Mais moi, j'ai juste une question.
L'arbitre contre le Burkina Faso sera un arbitre commandé, le Sud-Africain de Freitas.
Oui, rapidement, parce qu'il faut que j'envoie la
pub. Voilà. Moi, la question...
Et juste pour vous dire, comme quoi...
Ouais. On a compris, Abdelkrim.
Pour l'équipe du Maroc, comme quoi, c'est pas normal qu'une équipe africaine reçoit tous ses matchs à domicile. Et j'aimerais bien aller voir, Inch'Allah, contre une grosse équipe africaine, contre l'Égypte ou contre le vainqueur de Cameroun...
Côte d'Ivoire.
Ouais. Ou contre le qualifié entre l'Afrique du Sud et le Ghana ce soir. Bon. Pour voir ce qui va là, à l'extérieur. Surtout à l'extérieur. Ah. Là où ils ont du mal.
Ouais. Merci Abdelkrim.
Bonne soirée à tout le monde. Salam alaikum.
Alaikum salam. Oui, c'est Sofiane.
Non, moi ma question c'est... en fait, j'entends ce que vous dites par rapport aux instances, mais moi j'ai un hic. C'est qu'il me semble que c'est la FIFA qui organise les compétitions.
Non, ça n'a rien à voir. Il y a une délégation
à la CAF.
Oui. D'accord. Elle délègue les qualifications du monde. Sauf quand il va arriver les barrages, là c'est la FIFA qui vient. Ouais. Et le problème, c'est la FIFA se met toujours en recul.
D'accord.
Elle laisse la CAF.
Non, mais ça m'intéresse de savoir.
Oui, la CAF va gérer ça. Et s'il y a un problème, la FIFA intervient. C'est l'histoire, la grande histoire qu'il y a eu en 82. Lors du match Algérie-Nigeria, et on a changé les arbitres, deux paires de gens qui étaient...
T'avais aussi l'histoire d'Irlande-France,
ouais.
Où la France avait été qualifiée avec la main de Henri, où c'est la FIFA qui était intervenue.
Oui. Mais là, c'était pas pareil, là, c'était des arbitres qui corrompus, nous.
Très bien. Sofiane, t'as un problème avec ton micro.
Ah oui?
Ouais.
Le micro ne passe pas. Ouais. Et ce que disait notre ami là depuis tout à l'heure, Abdelkrim, qui est magnifique, pour confirmer ce qu'il dit, il faut bien comprendre. Et c'est un des points... qui est dans la balance, c'est comme on n'a plus personne à la CAF, on ne peut pas imaginer que les Tunisiens, Marocains, Égyptiens, tous les pays qui ont du monde là, vont mettre en place toutes les stratégies. Moi, j'aimerais savoir simplement, c'est depuis quand qu'ils ont inventé l'histoire des critères dans les stades? Parce que ça date depuis 40 ans, 50 ans. Et là, comme par hasard, le jour de l'année, où il y a le Calife Coupe du Monde, on nous a sorti ça. Et comme par hasard, derrière, c'est tous les pays qui ont des stades qui ont récupéré.
Alors moi je lis.
Allez, la pause, on revient parce qu'il nous restera un petit quart d'heure. Il y a encore deux personnes du côté des standards. À tout de suite.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Beurre FM jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM.
Allez, ça passe très très vite. Donc, allez, je prends d'abord, je crois, j'ai Jawad de Paris. Bonsoir Jawad.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur Beurre FM, on t'écoute.
Merci beaucoup, c'est la première fois que j'interviens sur votre
antenne. Tu peux intervenir tous les dimanches, il n'y a pas de souci.
C'est très gentil.
On t'écoute.
Alors, si vous me permettez, j'aimerais bien répondre au précédent intervenant. Je suis d'origine marocaine.
Oui. Alors, qui a été intervenu, c'est Abdelkrim de Grenoble. Oh,
voilà. C'est ça. Ouais. Alors, il y a certaines vérités et d'autres non, dans ce qu'il vient de dire. Si vous me permettez, parce que c'est toujours bien d'avoir les deux avis.
Toujours, c'est intéressant la contradiction.
Ouais. Comment dire? Concernant le fait que le Maroc ait reçu tous ses matchs à domicile.
On parle de la sélection, pas des autres nations qui sont venues jouer au Maroc. Hein.
Oui, je sais, la sélection marocaine.
Très bien.
Je le conçois, je sais que moi-même, en tant que supporter marocain, je ne trouve pas ça normal. Ouais. Je ne trouve pas ça normal. J'aurais aimé voir ma sélection jouer à l'extérieur, pour voir vraiment ce qu'elle vaut. Vous le savez aussi bien que moi, sur les terrains hostiles d'Afrique, avec l'arbitrage qui va avec, les voyages, les terrains, etc.
Ouais, ouais.
Moi, je suis d'accord avec ça. Le Maroc contre la Guinée, à Conakry, le Maroc s'est déplacé.
Oui.
C'était
avant le coup d'État, il me semble, non?
Oui, exact. Ouais.
Non, il s'est déplacé, il y a eu un coup d'État, les Marocains ont été bloqués à l'hôtel.
Oui, c'est vrai. Oui, il y a un blocage.
Est-ce que c'est la faute des joueurs s'il y a eu un coup d'État? Ça, c'est le premier point. Après, s'il faut vous dire que il est aussi puissant pour déclencher des coups d'État, ça, c'est un autre débat.
Ouais.
Ensuite, le Maroc devait jouer contre le Soudan à Khartoum.
Mm-hmm. Ouais.
Coup d'État.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu aussi un coup d'État.
Oui, monsieur.
Au Soudan, oui.
Coup d'État à Khartoum. Est-ce que c'est la faute de la sélection des joueurs? Parce que là, moi, je parle d'un point de vue uniquement footballistique.
Bien sûr.
Je suis d'accord avec Sanjak quand il parle de la politique dans le football, etc. Je suis d'accord avec ça. Mais là, moi, je parle d'un point de vue footballistique. Mm. Est-ce que c'est de la faute des joueurs si les sélections n'ont pas de terrain praticable, premièrement? Et deuxièmement, si elles acceptent de venir jouer au Maroc? Sachant que la Guinée a envoyé une requête. Une fois qu'il y a eu le coup d'État, elle a envoyé une requête à la fédération sénégalaise pour jouer à Dakar contre le Maroc.
C'est vrai.
Le souci, c'est que le terrain était dégueulasse. D'ailleurs, vous vous souvenez, Sadio Mané l'avait critiqué. Est-ce que c'est la faute des Marocains?
Ah bah oui, ça c'est vrai. On va dire.
Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'aurais préféré, je vous le dis, j'essaie d'être le plus objectif possible. Parce que Abdelkrim, quand on l'entend parler, on voit que le cœur parle plus que la raison. Moi, j'essaie de mettre la raison en avant. J'aurais aimé que le Maroc joue à Khartoum, à Khartoum, à Conakry et à Bissau. Mais quand on voit ce qui s'est passé, est-ce que c'est de la faute des joueurs marocains, de la sélection marocaine?
Non mais attends, tu sais que je vois ce qui s'est passé aussi. Il y a eu même, pendant ce fameux coup d'État au Soudan, il y a eu les Algériennes qui sont partis jouer à faire le football féminin. Eh bien les gamines étaient coincées là-bas aussi. Oui, tout à fait. Elles étaient coincées, donc il a fallu les rapatrier aussi.
Et leur famille n'avait pas de nouvelles?
Pas du tout. Aucune.
Non mais je sais, je suis le football africain. Là vraiment, il n'y a pas de problème là-dessus. Exactement. Ouais. Exactement. Est-ce que c'est de la faute du Maroc aussi? Que l'équipe d'Algérie des féminines n'a pas pu jouer?
Non mais je crois qu'il y a une chose que beaucoup ne comprennent pas, c'est que quand on parle des coulisses du football africain, ça se passe dans toutes les confédérations. Alors, c'est ce que je dis. Tu prends les Sud-Américains.
Vous l'avez dit pour l'Amérique du Sud.
Voilà, je vais parler du Brésil et de l'Argentine qui sont très puissants. Enfin, leur présidence est tellement puissante que ils font ce qu'ils veulent des éliminatoires. Nous, en Afrique, c'est vrai que quand il y a eu Hayatou, il avait une équipe. Dans cette équipe, il faut savoir que le secrétariat général, en principe, enfin, ou le siège, n'échappe jamais à l'Égypte. Hein. C'est historique, c'est comme ça. Après, ce qui s'est passé, c'est que je crois que c'était au moment où il y a eu Hayatou, lui, et donc il avait. Adoubé, je crois, Hicham El Amrani, qui était le secrétaire général, parce que les Fermi, qui avaient le monopole sur le secrétariat, ont récupéré un poste à la FIFA. Ça s'est passé comme ça. Exactement. Et lorsqu'il y a eu, la chute de Hayatou par Ahmed, le congrès a eu lieu, je crois, au Maroc aussi, parce qu'il faut, ce que les gens oublient, c'est que Hayatou a été élu la première fois en 88 au Maroc. Hein.
Ouais.
Je
voulais pas prendre la défense à Bekri, mais simplement, la question qui se pose, c'est pourquoi les matchs, peu importe les raisons des matchs qui ont été arrêtés, qui sont légitimes, hein, des coups d'État, on ne discute même pas là.
Bien sûr, ouais.
Mais comment se dit que ces matchs-là ont tous été dirigés au Maroc, en sachant que tous les pays africains pouvaient recevoir ce match-là? Il y a l'Égypte qui pouvait recevoir, tu avais l'Afrique du Sud qui pouvait recevoir, tu aurais même sûrement eu l'Algérie qui aurait pu recevoir des équipes-là, mais comme par hasard, tous ces matchs ont été dirigés.
L'Algérie, quand on voit ce que Belmadi a dit sur la pelouse, je ne sais pas.
Non, mais il n'y a pas un critère de pelouse magnifique dans les autres stades. C'est pas une obligation d'avoir.
Bah, je sais pas. Moi, c'est Belmadi lui-même qui l'a critiqué.
Oui, mais quand on voit la pelouse du Niger, on va pas dire que la pelouse était top niveau. Qu'on a eu.
Ah oui, c'est vrai. Bah aussi,
bien sûr. Voilà. Non, mais n'importe quel pays africain. Non, mais l'histoire, elle est là. C'est que n'importe quel pays africain.
Pour moi, le Niger-Algérie, pour moi, l'Algérie aurait dû jouer sur une autre pelouse de meilleure qualité.
Oui, c'est vrai.
Tu l'as pas, mon. Tu l'as pas.
Non, mais je suis objectif. L'Algérie aurait dû jouer sur une pelouse de meilleure qualité.
Mais pourquoi tous les matchs ont été dirigés au Maroc? C'est ça l'histoire. Pourquoi tous les matchs ont été dirigés là-bas au Maroc? Et pas en Égypte et pas en Afrique du Sud, par exemple. Pourquoi?
Non, l'Afrique du Sud, Monsieur Sanjak, l'Afrique du Sud a accueilli pas mal d'équipes.
Oui, j'ai pas vu.
L'Afrique du Sud, il n'y a pas que le Maroc. La plupart des. Les 50%, 60% des qualifications pour la Coupe du Monde ont été accueillies par le Maroc et par l'Afrique du Sud. Non, pas que du Maroc.
Oui, je savais pas que.
En fait, les pays. Les pays au sud de l'équateur.
Le Malawi, voilà,
oui, c'est ça.
Le Malawi, là, en Afrique du Sud.
Voilà, les pays au sud de l'équateur, comme le Malawi,
le Vatican.
Et la Tunisie, pourquoi elle ne peut pas recevoir la Tunisie? Je veux dire, elle n'a pas des circonstances, la Tunisie. Elle les a aussi.
Mais qu'elle accueille. Mais qu'elle accueille.
Après, c'est la Tunisie.
Ah oui, mais tu. Bref.
En fait, la Tunisie n'a peut-être pas voulu. Genre, ça, on ne sait pas, justement.
On ne sait rien. Mais oui, qu'elle l'accueille. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais en quoi les joueurs marocains qui, eux, sont là pour jouer au football...
Non, on ne parle pas des joueurs. Non, attends. Le joueur, il est convoqué. Il arrive sur le terrain. Il a un adversaire. Il joue. Là où tu lui envoies, il joue. Non, c'est c'est plus dans l'organisation.
Comment il s'appelle déjà le sélectionneur remplaçant, l'intérimaire de la Guinée? Comment il s'appelle déjà?
Bonne question. Parce que
c'est Camara, non?
C'est celui qui a remplacé Didier Six, oui.
Oui. Il est passé sur Canal+ Afrique en disant le Maroc, c'est pas normal qu'il accueille. Mais ya Ebadullah, vous n'avez pas de pelouse.
Oui, c'est.
Vous êtes sérieux ou quoi?
Attends, Jawed.
Vous n'êtes pas content?
La Guinée, qui, sous l'ère Hayatou, a été désignée organisatrice de la CAN en 2025, en sachant qu'ils n'ont jamais commencé le moindre chantier de travaux.
Mais le Cameroun, on en parle du Cameroun?
Oui.
Qui est à chaque fois en durable?
Ben oui, ben, les Camerounais...
Le critère des pelouses, là, ça date de... Ah non. Pourquoi les 40 années derrière les 40 années, attends, je vais finir. Les 40 années qu'il y a eu derrière où tous les joueurs africains ont été dans les quatre coins de l'Afrique, où ils ont joué dans des conditions de folie que tu peux même pas imaginer. Moi, j'en ai vécu quelques-unes, donc je sais ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on se dit qu'il faut obligatoirement un critère d'une belle pelouse. Moi, je suis d'accord avec toi, C'est pas ça qui dérange le jeu, on va dire. Mais ça va permettre de renouveler le niveau. Mais que les gens reçoivent tout le temps dans un pays, quand tu sais qu'il y a plusieurs pays, pourquoi c'est pas la CAF qui a désigné elle-même le pays? Pourquoi on a appris que
les pays ont sollicité
le Maroc comme par hasard?
Le président de la CAF, il est sud-africain.
Oui.
Quand il a été intronisé, quand il a été nominé président de la CAF, il l'a dit lui-même dans l'un de ses discours, il a dit dorénavant, toutes les équipes se doivent avoir au moins un stable aux normes FIFA pour jouer les qualifications. Celles qui ne l'ont pas, ne joueront pas chez elles. Il est sud-africain.
Oui.
C'est bien que les sud-africains et les marocains ne sont pas forcément amis.
Ça c'est vrai, politiquement je suis d'accord avec toi.
Voilà, donc qu'on vienne pas dire que c'est le président sud-africain qui a aidé le Maroc.
Non, c'est pas ça. C'est ce critère-là. Ce critère-là existe depuis 2021, comme si on savait pas que les pelouses en Afrique,
je
à Bamako ou au fin fond de l'Afrique,
elles sont complètement déplorables
et qu'on nivelait les valeurs à ces matchs-là. On le sait, ça a toujours fonctionné.
Je suis d'accord.
Quand on était au Burkina Faso, l'Algérie, il y a 4 ans, elle était au Burkina Faso dans des conditions de fou.
Quand on met le VAR.
Attention, non, j'ouvre une parenthèse. Pendant les éliminatoires de Coupe du Monde, le VAR n'existait pas pour les éliminatoires africaines.
Mais voilà, ce que j'allais dire. Pourquoi le VAR n'est pas en place?
Oui, les VAR en Europe, utilisés en barrage.
Oui, uniquement en barrage. Oui, on est d'accord. Mais en Europe, il n'y a pas...
Non, mais je suis d'accord. Moi, je me souviens de l'Algérie, parce que je regarde les matchs de l'Algérie, de la Tunisie, enfin, tous les matchs africains, j'adore.
Ah oui.
L'Algérie, quand elle a joué en Centrafrique pour la CAN 2012, qualification, c'était dégueulasse.
Ah, c'était pas un stade.
C'était pas un stade. Ou contre le Mali, etc. Mais je suis d'accord avec Sanjak. Corrige-moi, Sanjak, si je me trompe. Toi, ce que tu dis, c'est pourquoi on a attendu maintenant pour dire que toutes les pelouses dégueulasses, on n'y joue pas, alors que c'était le cas depuis des années.
Voilà. C'est l'histoire du magicien qui sort de la
pomme. Je suis totalement d'accord avec toi. Encore une fois, on sait très bien que malheureusement, qu'on le veuille ou non, le football et la politique ne font plus qu'un. Mohamed l'a dit juste avant avec l'Amérique du Sud.
Ah oui, moi parce que l'Amérique du Sud, je le suis même de j'ai regardé l'historique des Américains, même depuis les années 50.
Non mais tu sais, quand tu nous sors quand tu nous parles de la politique, ils ne font un. On est en 2021. Moi, je suis surpris parce que je connais ça depuis 40 ans et ça a toujours été à l'intérieur, surtout dans les pays où on décide elle, de lui mettre l'éclairage et de lui regarder ses soudoyés. Il faut savoir qu'en Europe, c'est la même. Hein. C'est la même chose. Simplement, tu ne vois pas et tu ne sauras pas.
Ouais,
tu ne sauras jamais.
Mais non, on parle d'Afrique.
Non, mais pour te dire, l'Afrique, c'est ouvert, c'est direct, c'est en face de toi.
Comme on dit chez nous, à Inan.
À Inan, tu peux faire ce que tu veux. Donc si tu as le pouvoir, comme disait Abdelkrim, j'ai bien apprécié son question, quand il te dit que tu as des coulisses, tu as des gens qui maîtrisent, là, quand nous on l'a eu aussi, hein, faut pas l'oublier, on l'a eu aussi ça,
ah oui,
ce poids, et ben quand tu l'as pas, ça va être chaud pour toi, comme dirait l'autre. Ça va pas être simple.
Oui, exactement. Mais qu'on parle de la politique, le Qatar, par exemple, la Coupe du Monde,
ouais,
c'est une question d'argent.
Bah, bien sûr. Compris. Ah, ça y est. Ben oui.
Sincèrement, c'est quoi le lien entre le Qatar? Ils ont naturalisé toute leur équipe. Entre le Qatar et la Coupe du Monde.
Ah ouais, c'est vrai.
C'est une question de thunes.
Ben oui, c'est l'argent, bien sûr.
Si le Maroc se qualifie, ou la France, que je supportais des équipes, j'y vais pas au Qatar, j'ai rien à foutre là-bas. Sincèrement, mais je vous le dis vraiment.
Le Qatar, c'est quoi la prochaine Coupe du Monde?
Après c'est les États-Unis.
Après c'est les États-Unis, Mexique, Canada.
Ah, bien joué, bien joué. C'est
bah
ça.
Oui, bah oui.
Mexique, Canada.
Merci Jawad. Je dois reprendre un appel parce qu'il me reste 4 minutes avant de finir l'émission.
Ouais, dernier point, là où je disais Sanjak, il y avait 9 équipes pour l'Afrique, etc. Et sur ce point-là, je suis totalement d'accord avec toi.
Merci mon ami.
Sur le point de l'Afrique, 55 sélections, fédérations, 5 places. C'est un chômage énorme. Mais bon, on en
parle. Bien sûr.
En tout cas, on le dit tout le temps.
Bah là, maintenant, nous, on va le rabâcher ça sans arrêt. On est obligé.
Parce que je le dis sur les plateaux télé. C'est là-dessus qu'il faudrait qu'il en parle. C'est ça l'histoire.
2026, l'Amérique du Sud aura 6 places sur 10.
Bah, mais tu te rends compte, 6 sur 10.
6 sur 10, oui.
Ouais, c'est...
Et la CONCACAF, l'Amérique du Nord, elle aura 6 places.
Bah, mais attends, la CONCACAF, il n'y a pas grand-chose, à part...
Non, il y a l'Amérique du Sud, le Mexique, oui. Le Canada qui a une belle génération.
C'est vrai, le Canada, les États-Unis, le Mexique.
Et Costa Rica.
Ouais. C'est Costa Rica, Honduras, oui.
Nous aussi, on a des belles générations, t'as vu, on a même Benzema et Mbappé, les Algériens qui marquent des buts.
Ouais. Merci Jawad.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Merci, au revoir. Magnifique, belle intervention, moi je suis très content. Il me reste 4 minutes, je vais les finir avec Mourad. Parce que Mourad, on va aller très vite. Il est 55. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir à toute l'équipe. Moi, je trouve que vous me faites un peu, excusez-moi, rire, quoi. Ah. Quand j'entends dire qu'il est scandaleux que l'Afrique n'ait que 5 équipes.
Ben oui, pourquoi?
Mais vous avez vu les résultats.
Mais c'est normal, c'est parce que...
Vous savez que quand on était à 2 équipes, 82, 86, 90, on faisait de meilleurs résultats que à 5.
Oui, bah parce que... Mais tu sais
mais
bien...
On n'a pas de résultats, on n'a rien à faire.
Mais Mourad, mais...
Si c'est pour envoyer la Tunisie qui fait de la figuration, si c'est pour envoyer la Côte d'Ivoire 2006, 2010, 2014 qui fait de la figuration, si c'est pour envoyer des équipes comme ça, je pense qu'on est à notre place.
Oui, mais non. Comment veux-tu développer le football continental si tu le sous-représentes? Parce que, écoute, dis-toi bien une chose.
Il faut faire
En Afrique, il y a un problème.
Si tu vas en Coupe du Monde et que tu ne fais pas tes preuves, à quoi ça sert?
Non, c'est pas à quoi ça sert. C'est que pour que ton pays se développe, il faut aussi lui permettre de faire ses compétitions, pas uniquement avec deux représentants, je suis pas d'accord. Et puis, non, n'oubliez pas, nos championnats...
Il y avait deux représentants et on s'en sortait très bien en 82. Mourad,
n'oublie pas que les championnats locaux ont été complètement anéantis. Aujourd'hui, en Afrique, le niveau des clubs est tellement bas qu'on n'a pas un renouvellement de génération. Les meilleurs footballeurs africains, on les a pris, ça y est.
En club, a toujours été mauvais. Depuis 70 à aujourd'hui.
Oui. Non.
Les clubs africains, parce qu'ils disputent la Coupe intercontinentale ou parce qu'ils vont en Europe jouer des matchs, on a vu le résultat. Je suis le football africain depuis 40 ans.
C'est pareil, je suis. Non mais moi là, je suis comme toi. Je pense que tu dois reconnaître aujourd'hui que s'il n'y avait pas les Africains, tu n'auras pas de football en Europe. C'est non, sans les enfants, sans l'Afrique. Mais c'est parce que c'est ça qui est le drame, Mourad. Le drame, il est là.
Non, mais je ne parle pas de résultats. Moi, je parle de l'humain. Aujourd'hui,
oui,
le.
Je parle de collectif.
Oui, bah, on a pris la quintessence du continent.
Oui. De temps en temps, a sorti de grands joueurs.
Oui.
Mais tu me dis qu'au niveau des résultats, lorsqu'on va en Coupe du Monde, imagine, depuis qu'on est passé à 5 en 1998,
oui.
On a une équipe qui va au second tour.
Oui.
Une équipe en 1982, 86, 97, avec deux équipes, on arrive à sortir une équipe au 12e tour.
Mourad,
en plus, le Cameroun en 90, par exemple.
Non, mais moi là, toi, tu es dans le factuel résultat.
Attends, moi, je vais dire.
Non.
On est à notre place.
Mourad, ah non, on n'est pas à notre place. Non. Non.
Il est à sa place.
Non, je ne suis pas d'accord. Non, mais attends, n'essaie pas de crier pour dire que tu vas remporter le débat.
Attends.
Non, je crie pas.
La réponse, elle n'est pas là. Attends, Mourad, juste deux minutes, deux petites minutes. Le débat, il n'est pas là. Un, déjà, il faut parler du continent. Un, c'est-à-dire que le continent, est-ce que ce continent-là mérite 5 places? Sachant que tu as 53 pays. Un, c'est la première. La deuxième, au terme de football, comme tu parles, la représentation du football, il est important que tu te confrontes, toi, tes pays africains, comme l'Asie l'ont fait, comme le Qatar a fait dans d'autres pays où il a été invité dans plein de compétitions internationales pour qu'il progresse. Nous, on a besoin de progresser. Là, on voit arriver quand même, depuis quelques années, quand même des footballs qui commencent à prendre figure. Que ce soit l'Égypte qui est quand même représentative, que ce soit l'Algérie qui l'est, que ce soit le Nigeria qui commence à l'être.